Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mesdames et messieurs, et bienvenue dans Underscore, votre talk show IT préféré tous les mercredis à 20h. Vous nous avez manqué, c'est la première de la saison et j'ai un grand honneur de recevoir mon ami Hardisk.
Bonjour.
On se voit tous les jours au bureau.
Tous les jours.
Mais ici c'est différent.
Ici il y a une ambiance particulière, je suis assez d'accord, c'est un petit peu l'arène des lions.
Ça t'a manqué.
C'est un petit peu dans, pas dans Koh-Lanta, mais genre dans Fort Boyard, tu sais, quand il faut attraper les boyards et tout machin, c'est un peu l'ambiance. Et moi ça, je me sens comme ça à titre purement personnel.
Deux mois après sans émission, ça t'a manqué un peu?
En vrai oui. Non mais premier Doug, oui, on s'est quitté dans la saison précédente avec un espèce de truc, avec tous les gens du bureau ici, on a fait un petit undercore spécial et
des
tout.
Des petites larmes.
Et ouais, en vrai ouais. Il s'est passé plein de choses. J'ai changé de coupe de cheveux, déjà.
Oui, moi aussi, c'est passé des trucs.
Je me suis lavé et tout. Enfin, j'ai fait des trucs.
Et mon deuxième invité, vous l'avez reconnu, bien entendu, c'est monsieur Théo Clément.
Oh, quel accueil.
Comment vas-tu?
Bah, ça va, je suis content d'être ici, ça me fait plaisir.
Et bah, nous, tu peux le dire, ça fait très longtemps qu'on t'attend.
C'est vrai.
La première invite est partie en février.
Ah, tu le dis? Ouais, est-ce que c'est une attaque frontale en intro de l'émission?
Ah, c'est passif agressif comme ça.
Dis donc, on répond pas à ces mails.
Non, mais on a tous des emplois du temps de malade, surtout chez vous, voilà, à la paprod. Tout ce que vous nous sortez, c'est quand même insane. Et donc voilà, pour ceux qui te connaissent pas, ils seront rares, mais je précise, tu es le sidekick des Domingo.
C'est bien dit.
Ça te va. Donc c'est toi qui est notamment derrière la production de Popcorn.
Ouais, tout à fait.
La fameuse émission. Qu'est-ce que tu fais d'autre à la Paprod?
Qu'est-ce que je fais d'autre à la Paprod? Du management, beaucoup de management, du recrutement, de la gestion, du développement, de la recherche et développement même, pour être plus précis. Puis un peu d'innovation, quoi, quand on a le temps d'en faire, si on peut.
Eh ben, tu viens de décrire le programme.
C'est beau.
On va discuter justement de tout ça parce que c'est très intriguant de savoir, en tant que un peu Tekos, on partage.
Oh, on peut le dire.
Tekos dans une équipe de production de visuel. Ce qui est pas non plus le truc le plus fréquent au monde.
Non.
On va pouvoir se partager des trucs, voir comment ça fonctionne chez vous, voir comment
Il y a des points communs déjà.
C'est vrai.
Cool. J'ai vu en coulisses.
C'est bon signe. Si on fait pareil que les boss du game.
Arrête.
C'est l'émission de sausage, je te préviens.
Tu te kiffes en fait, quoi. Voilà. Quoi te dire d'autre?
Arrêtez.
D'ailleurs, comme on t'a en otage pendant 1h30, on va te demander comment percer indirectement sur Twitch.
Alors j'ai une réponse toute faite. Non.
Non.
Pas de réponse.
C'est non. Non mais bien entendu, on parlera de plein d'autres trucs. Et Hardisk, j'ai noté pendant mes petites vacances que tu étais très actif sur Twitter.
C'est vrai, j'en peux plus d'ailleurs.
C'est vrai.
Hein. Oui, ouais, en fait, c'est un réseau que j'aime bien parce que j'ai le cerveau connecté sur le shitpost constant, tu vois.
Mais j'ai l'impression que toi et ce réseau, vous allez bien ensemble, je trouve.
Ouais, mais non, le truc c'est que je suis gentil, tu vois. Je suis pas quelqu'un de méchant, mais j'aime bien faire des vannes tout le
Envoyer
temps.
Envoyer des petites bombes.
Et sur mais attends, qu'est-ce que tu racontes, les gens ils vont penser que
le drama, le drama, on en peut plus. Hein.
Non mais je note par exemple. Je me suis dit, on va prendre en fait c'est pour te dire.
Mais attends, je me fais fusiller.
Attends. Contexte. On s'est dit avec Mathieu qu'on réagit, on aime bien réagir à tes tweets qui sont extrêmement qualitatifs et qui nous font toujours passer un bon moment. On s'est dit, comme il y en avait un la dernière fois que t'étais venu, on s'est dit, et si on instaurait un petit truc, c'est que quand tu viens dans l'émission, genre on réagit à un de tes tweets.
Mais tu sais que parfois je les poste et je suis là genre,
il est 2h du mat,
juste une petite vanne à chier à 3h du mat, quoi.
Mais on sent la frustration, tu vois. Dans
ton... Mais oui, non, parce que...
Mais tu dis 2h du mat, il était 10h déjà du matin.
Déjà. Non mais moi... Je dis aussi des vérités. L'abonnement LinkedIn Premium, ça coûte 70 000 brousouf par seconde. Le seul truc pour lequel tu veux t'en servir, c'est de savoir si Michel de la Comta a vu ton profil pour lui envoyer un CV. On est d'accord. Ouais. On s'en branle du reste.
Ouais. C'est vrai.
Voilà.
C'est
et donc, vrai que juste pour une fonction de Skyblock de base, ça te coûte l'équivalent d'un PEL. C'est pas normal.
Il y a un non-dit sur le LinkedIn Premium qui est que on s'en fout de absolument tout.
Oui.
sauf
voir qui a vu.
Fonctionnalité qui a vu.
C'est quoi les autres fonctionnalités en vrai de LinkedIn Premium?
Alors,
vous savez ou pas?
Mec, il y a un CRM qui te permet de te connecter avec Salesforce si jamais tu fais du retargeting de machin truc.
Ouais, c'est voilà. Pas nos métiers, c'est pour ça. C'est pour ça, je pense.
C'est, faut avoir une belle chemise, sortir de HEC. Au-delà de ça.
Au-delà de ça, très très peu de fonctions quoi. Finalement. Et en parlant de tweets, n'est-ce pas? Vous aurez remarqué qu'il y a un petit bonhomme qui apparaît en bas à droite de l'écran. Si vous nous rejoignez pour cette première de la saison 2 d'Underscore, vous ne êtes peut-être pas au courant, mais on a un petit assistant virtuel, n'est-ce pas, qui s'appelle Gabin et qui est extrêmement mignon. Et donc, si vous voulez réagir sur Twitter, nous expliquer tout simplement vos pensées, vos réflexions par rapport à l'émission, il y a plus de chances que ça passe si c'est pertinent, honnêtement. Vous pouvez être aussi très drôle.
Qui choisit?
Au choix.
C'est Gabin qui choisit.
C'est Gabin.
C'est Gabin qui choisit.
C'est une intelligence artificielle.
On est parmi quoi dans 24 heures.
Vidéo à venir?
Vidéo à venir, bien sûr.
Il s'est engagé. C'est bon, c'est fait.
J'ai une semaine pour prendre ça. Donc voilà, si vous voulez réagir à ce qui se dit dans l'émission, vous pouvez utiliser le hashtag U underscore. Voilà. C'est un peu mindfuck. Mais...
Hashtag uncut, bien sûr, hein, ce soir. N'hésitez pas.
Et voilà, et ça fonctionne. Et c'est beau. Ça peut paraître bête.
Il est pas mal, votre hashtag. Parce qu'il est facile, du coup.
Et bah...
C'est vraiment facile et original.
Je te remercie. C'est une idée de Ajax. Voilà, pour info. Oh. On était en brainstorming. Il est passé, il a dit, faites ça. On a dit, ok. Et okay. Voilà. Et voilà. Donc, non, c'est une très, très bonne nouvelle. Pour vous, pour toi, ça doit paraître très anodin, tu vois, d'avoir des tweets en live et tout. Il faut savoir que pour nous, on est dans le futur. Voilà. On est dans le futur.
Alors, actuel, tel que tu le vois, et dans le futur.
Non, mais nous, on a un outil en particulier, etc., pour ça, hein, sur nos différentes productions.
Et bah, c'est beau. Et bah, ouais. C'est beau. Et bah, nous, on a un VS Code qui tourne en mode debug.
Oh nom de Dieu.
avec un petit truc fait à la main.
Mais ça fonctionne. Voilà.
Mais tu sais que c'est pratique parce que les gens, si jamais il y a des gens qui découvrent l'émission, on n'a pas le droit au chat dans ton émission.
Ce qui est vraiment frustrant. T'es en train de le.
C'est une bonne chose. C'est une vraie bonne chose.
Ah, je vous le dis. On en a parlé. Lui, il est comme toi. Il est d'accord sur le fait de faire un chat.
Évidemment. Évidemment. Moi, je disais juste avant l'émission à Hardisk. En gros, si tu laisses un chat aux personnes qui interviennent dans une émission, ils se concentrent plus sur ce que les gens du chat disent que sur l'émission en tant que telle.
Et moi, ce que je te disais, c'est que ça te permet de voir l'opinion du chat par rapport à ce que tu dis et donc d'appliquer une démagogie totale pour que les gens soient d'accord avec toi. Et ça, c'est quand même vachement pratique.
Mais c'est de la manipulation, ça.
Absolument.
D'accord, regarde, c'est juste.
Lâchez vos primes.
Mais alors, à savoir que c'est plutôt dans l'autre sens que ça s'est passé. C'est pas Clément qui est d'accord avec moi. C'est plutôt moi qui, en montant Underscore et discuté avec Clément, je lui ai dit, c'est quoi tes meilleurs tips? Pour
et tu m'avais donné ça comme tips.
Et tu m'avais donné
c'est
ça.
Mon secret.
Non mais du coup voilà effectivement. Mais c'est pas qu'il y a pas le droit, c'est que.
Non mais c'était pas une plainte. Une plainte, Michael. Juste, du coup c'est une interaction que du coup on voit. Et ça c'est marrant.
Exceptionnel. oui c'est vrai.
Pas de réponse. Hein. Non,
pas de
ça,
réponse.
Ça veut dire renvoie une lettre recommandée en 2023 s'il te plaît.
Mais en fait je me remets pas que ça marche honnêtement. Non, pas le chat. Oui, voilà. Même Gabin, on a ras-le-bol parce que voilà.
Sacré Gabin qui n'est pas du tout un stagiaire le troisième.
Non.
Faudra dire son vrai prénom au moins.
Hein, je sais pas, Joseph, Kylian, je sais plus.
Ah, c'est comme dans les startups qui disent qu'ils font de l'IA, genre.
Oui, alors ça c'est génial.
Et en fait, t'as trois if then else qui sont cachés dans le
plafond.
Ouais,
c'est ça.
On les connaît, n'est-ce pas? Le petit programme de la soirée, pour tout vous dire, on va recevoir un collectif qui s'appelle Obvious, qui est vraiment très très stylé, qui fait de l'art à base d'algorithmie et d'intelligence artificielle. Très stylé, très très flou. Mais on voit tout ça à la fin de l'émission. On va aussi avoir une petite surprise, c'est un format qu'on vous a concocté. On a essayé de bosser ça honnêtement en 3-4 jours. Donc faudra pas être trop méchant. Mais à tout moment, voilà, ça arrive dans l'émission. Un petit format vidéo qui sortira d'ailleurs sur YouTube. On se demande l'inspire d'où elle vient d'ailleurs. mais du coup...
T'as vu comment il est humble?
Ouais, vraiment.
Non, mais
il faut... aussi humble, sympa aussi
non, humble. Il faut...
T'es un gros bowler, mec. T'es un rappeur américain.
Il faut dire chose. En fait, notre façon de travailler ici, c'est quoi? On a un problème. On se demande comment est-ce qu'on fait? Et du coup, on se pose la question de que fait Popcorn.
Mais tu sais comment
après,
nous on fonctionne?
On fait pareil.
Tu sais comment nous on fonctionne? On a un problème, on regarde ce que fait les autres, ce que font les autres, oui. Et on copie.
En fait, non, mais les inspi, il y a des inspi genre américaines, parce que souvent oui, ça arrive là-bas bien d'ailleurs,
sûr,
tu vois.
Bien sûr.
Mais je connais pas trop le game Twitch américain.
Alors, pas du tout le game Twitch américain, c'est pas ouais, ça qu'on regarde, parce que les Américains sur Twitch, ils font quand même globalement du gaming et même plus de la compétition e-sportive, okay, tu vois.
Pas prod.
Ouais, enfin, il y en a très peu.
C'est pas très plateau.
Non, c'est pas
parce
plateau.
Moi, je regarde beaucoup les US aussi, et c'est vrai que c'est pas très plateau, c'est pas la culture.
C'est, bah ouais, c'est pas la culture, puis c'est pas ce que les gens attendent en fait. Ouais. Pour le coup, en Europe et particulièrement en France, t'as un vrai gap entre la télé et Twitch. Et du
de
coup,
ouf,
ce que tu regardes pas à la télé, enfin, vu que tu ne regardes pas à la télé, tu peux éventuellement vouloir le retrouver sur Internet. Aux US, c'est pas vrai.
Mais c'est vrai qu'aux US, Twitch, c'est principalement Asmongold en slip, avec une casserole sur la tête, avec 100 000 viewers, tu vois. Ouais. C'est vraiment ça l'ambiance. Quoi.
Pourquoi ouais, on s'emmerde en fait hein? C'est ça la question.
Mais mec, let's gong, quoi, vas-y, hein.
C'est rien, on stream, c'est pas mal. Hein. La skip, ça marche.
Mais c'est vrai ça.
Bah ouais.
Il avait tenu combien de temps, le gars là?
Ludwig, il est venu un mois.
Plus même. On en a parlé dans Popcorn il n'y a pas longtemps.
Je sais plus. Ouais.
Il avait. Je crois qu'il est allé jusqu'à 289 000 abonnés.
Putain,
pour ouais, cette bêtise.
Mais qu'est-ce qu'on s'embête en fait. Bon, changement de programme sur Underscore. Il y a un canapé lit d'ailleurs en plus. Hein.
Et bon,
hashtag rompiche dans le chat, bien sûr.
Avant de passer au sujet Clément, je vous propose une petite chronique que je vous ai concoctée. Un truc que j'ai trouvé cet été qui m'est arrivé. Je vous raconte ça. Jingle. Donc je vous raconte ça. En fait, au début du mois, je suis tombé sur une vidéo où j'étais mentionné. Je sais pas si ça t'arrive en tant que youtubeur, un disque, quelqu'un qui fait, c'est ouais, sûr, genre je réagis à un truc à dire disque, je réponds.
Ça, c'est
à un disque.
Cette bon, merde.
Voilà. C'est assez classique. Et donc c'est le genre de vidéo qui a honnêtement assez peu de vues, mais voilà, comme on parle de moi que je suis un énorme mégalomane finalement, eh bien je regarde quand même.
Tout c'est irrésistible.
Non mais voilà, c'est une technique qui marche très très bien. Nicode, la trouvaille de trop.
3 ans de prison, t'as fait de la tôle.
Non mais
j'étais pas au courant.
C'est à dire quoi la trouvaille de trop? C'est que vraiment ils voulaient pas te trouver sur YouTube. Non, mais... ça donne cette impression là, c'est genre je découvre la chaîne de Nicode, enfin vraiment c'est trop, je vais faire une vidéo.
C'était trop long ma soirée quoi, vraiment là.
Il a fait une vidéo.
Ça n'a aucun sens.
Du coup, je me suis dit, comme vous êtes d'accord avec moi, visiblement, on a envie de savoir ce qui s'y passe.
Bah ouais.
Finalement.
Ah, surtout avec le 3 ans de prison sur la miniature.
Mais oui,
c'est très bizarre.
C'est presque une menace.
Un petit. Un génie. Et en fait, surprise, c'est méga intéressant. En gros, bon, déjà, c'est un peu flippant parce que c'est un monsieur qui parle de trucs juridiques. Donc, je crois que il est conférencier, lui.
Okay.
Et voilà. Et donc, son thème, c'est le juridique dans l'IT.
Okay.
Donc voilà, il regarde des cas compliqués de jugement. Est-ce qu'on a le droit de faire tel truc? Est-ce qu'on n'a pas le droit de faire tel truc?
Ok.
Et en fait, il a réagi à ma trilogie que vous avez peut-être vu passer sur les disques durs vendus sur Le Bon Coin. Je vous fais un rappel très très court parce que j'en ai beaucoup parlé, mais le principe c'était d'acheter plein de matos sur Le Bon Coin, de regarder ce qu'il y avait dedans et d'essayer de trouver des trucs rigolos, quoi.
Fouiller les disques.
Voilà, fouiller les disques. Et chose incroyable, c'est qu'on a eu énormément de chattes, voilà, on peut le dire, on est tombé sur une pépite, sur un disque dur qui provenait d'une entreprise d'hébergement, et donc on a réussi à remonter, à trouver plein de choses. Et ce monsieur s'est arrêté à un moment très intéressant. Je crois qu'on a un extrait, si on peut l'envoyer. Voilà, c'est ça.
Il dit un truc qui aurait réellement, il est incroyable, lui. Valoir 3 ans de prison.
C'est très très. On est d'accord. On vous met juste les 10 secondes.
C'est horrible.
Les plus stressantes.
Vraiment.
Attends, juste, j'aimerais juste le contexte. Dans quel contexte tu regardes ça? Est-ce que t'es genre sur la plage
Voilà, ouais, la petite transpiration.
Le monsieur, c'est le monsieur de la chaîne, là.
Oui, c'est ça.
C'est exceptionnel.
Alors, premièrement. Incroyable.
Le look.
Mais parce que je m'attendais pas du tout à ça. Genre sur la mini, j'avais l'impression que c'était genre, c'est la génération Fortnite qui était en train de faire une chaîne YouTube.
Pas du tout. Connu le Vietnam, le gros. Tu vois,
et du coup, je suis allé voir après ce qu'ils disaient. C'est vraiment hyper intéressant. Et donc, voilà, après ces 10 secondes, je suis un petit peu stressé finalement.
Tu m'étonnes.
J'ai la petite transpiration. Et en fait, il parle d'un moment précis dans la vidéo où j'explique que, Je serais intéressé pour avoir le code source d'un programme qui est en fait un programme que j'ai trouvé sur le disque qui appartenait à une entreprise mais qui était compilé. Donc compilé, ça veut dire que on sait pas ce qu'il fait. Voilà, c'est du langage machine, c'est illisible pour un développeur. On peut pas savoir. Donc moi qui suis un grand curieux, j'aurais aimé avoir le contenu finalement, trouver le code source. Et ça s'appelle du reverse engineering. Sûrement entendu parler. Et en fait, le simple dans la vidéo, je dis, on va pas faire du reverse engineering parce que je sais pas faire. Ce qui est le cas d'ailleurs. Il y a une vidéo sur ma chaîne, je sais pas si tu te souviens, Hardisk, qui parlait de faire un bot sur Uber Eats.
Oui.
Et bah, en fait, c'était un peu du reverse engineering.
Oui.
Où il fallait ouvrir l'appli, changer un truc, refaire l'appli. Bon, donc la police ne venait pas, SVP. Mais en gros, mis à part ça, non, c'est pas moi.
J'ai rien fait.
Il y a pas une preuve de. Il y a pas une preuve de 15 minutes publique sur YouTube. Mais bon, sur cette vidéo, en tout cas, j'avais fait l'impasse parce que c'était vraiment trop trop compliqué. Et voilà. Et heureusement, en fait, heureusement que j'ai dit cette phrase et que on n'a pas fait de reverse engineering parce que ce qu'il explique, c'est que en fait, c'est très rarement légal. Alors, il y a quelques petites exceptions. Mais le côté éducatif et voilà journalistique est très rarement valide comme une excuse pour faire du reverse engineering en fait.
Alors j'ai fait une vidéo récemment sur ma chaîne où on fait littéralement ça et où un avocat m'a dit que c'était ok et maintenant je suis.
Non,
trois ans de tôle. C'est maintenant, tu pars tout à l'heure.
Pour moi, justement, c'est là où c'est, je pense pas que c'était considéré comme la rétro-ingénierie. Tu parles de l'affaire Matrix.
L'affaire Matrix.
Est-ce que tu peux nous expliquer?
Ouais, en gros, Warner Bros. Donc a annoncé Matrix 4 qui sort bah, du coup, je crois, fin d'année, en
décembre,
cas,
je crois.
Décembre. Et donc pour ce faire, ils ont mis en place un site promotionnel sur lequel en gros t'avais deux pilules, rouge et bleu, et quand tu cliquais sur l'une ou l'autre, t'avais une voix off qui te disait l'heure qu'il était, et il y avait un fichier vidéo qui changeait à toutes les minutes. Ça montrait en 3D l'heure et tout, et ça te montrait des images extraites du film. Et donc moi, j'étais là genre. Hyper stylé, trop envie de faire une vidéo dessus.
Très bonne com déjà.
Déjà super plan de com. Je me suis dit, est-ce qu'on peut fouiller un peu? Donc, comme je suis un peu bricolo 2000 et que j'ai des bons copains, comme par exemple Diffen Intelligence, que je tirerais avec moi au trou si on est à Fleury-Mérogis,
s'il le faut.
J'appelle mon bon copain Diffen, on travaille dessus la nuit entière et on arrive finalement à retrouver des extraits de films et en plus des extraits de films qui étaient pas disponibles en public, qui étaient watermarqués Warner Bros. Avec le nom de l'employé qui s'occupait du marketing chez Warner Bros.
Sur le watermark?
Sur le watermark. Pardon. Du coup, on a flouté son nom évidemment, mais du coup, il y avait la date à laquelle la bande-annonce avait été faite, donc on savait quand est-ce qu'il l'avait produit. On a retrouvé plein d'infos et on a mis ensemble tous les bouts de vidéos uniques pour reconstruire ce qui ressemblait le plus possible à la bande-annonce avant que le studio le sorte lui-même. Et on l'a sorti avant le studio, la bande-annonce
incroyable.
De Matrix 4.
Franchement, après avoir suivi l'histoire dans les backstage, c'est passé de « imagine, c'est possible » à
oui.
« mec, on a trouvé un truc, il y a un watermark, on n'est pas censé l'avoir »
à un moment donné, il m'a entendu.
Oh putain, t'as pas un avocat parce que là, j'ai peur de faire une dinguerie.
Il m'a entendu hurler yes dans les bureaux et après genre c'est quoi le numéro déjà de monsieur oui c'est ça
du maître
j'étais comme du ça j'étais au téléphone genre allô
allô à l'aide
et donc voilà donc du coup bah, je me rechis dessus merci
non,
à
non,
toi
mais je pense honnêtement que c'est je pense pas que ce soit considéré comme du la rétro
ingénierie honnêtement si c'est accessible sur internet c'est des ressources publiques
voilà
alors Bluetooth quelqu'un qui... je sais pas si tu connais quelqu'un qui s'appelle Bluetooth
non.
Il y a quelqu'un qui a
c'est, été c'est une affaire effectivement
similaire, de, ouais, qui a été condamné pour avoir cliqué sur un lien Google. Hein,
ah ouais,
fondamentalement.
Mais s'y être maintenu. Enfin, c'est compliqué. Ouais, hein, on en reparlera okay, probablement une autre fois. Mais alors, justement, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas des affaires finalement qu'on pourrait trouver qui concernent ce truc-là pour voir s'il y a effectivement des gens qui étaient condamnés Parce qu'en fait, faut pas être hypocrite parce que le reverse engineering, on sait tous, voilà, on sait tous ce que c'est, on sait tous que. Tout le monde en fait, honnêtement.
Enfin, oui. Voilà, toutes les boîtes, dans
tous les gens qui font des flashs pour les consoles ou les iPhones ou les trucs, c'est du reverse.
Après, ça, c'est illégal de base. Hein.
Oui, ça, c'est la partie.
Comme je me permets. Ah bon
non, premier degré.
Bah oui. Enfin, les distribuer, oui, c'est illégal.
C'est-à-dire que.
Mais j'apprends premier degré.
Non, mais
ça.
En fait, acheter des PS4, les hacker et les revendre. Acheter des PS4, les hacker et les revendre, ça, c'est évident que c'est.
Non, les revendre, oui. Mais les gens qui diffusent un custom firmware de.
C'est honnêtement, c'est compliqué.
Parce un que patch, tu vois, je sais pas.
Je pense que c'est condamnable, en tout cas.
Moi, j'avais un peu suivi ces questions-là sur la Switch, par exemple, et c'est un jeu du chat et de la souris, en fait, sur les gens qui le font, ils font en sorte que ce soit pas considéré comme une manière de détourner la propriété intellectuelle, mais en même temps, c'est assez épineux. Alors, justement, notre ami, là, il s'appelle Guillermito, et c'est un chercheur français qui était à l'université de Harvard, et dans les années 2000, il a reverse engineeré, c'est très dur à dire, un logiciel de sécurité informatique, donc qui s'appelle V-Guard. Et alors, lui, en fait, à l'origine, son objectif, c'était de chercher des vulnérabilités. Il n'était pas là en mode on va récupérer leur source secrète pour faire un logiciel concurrent. Voilà, il n'était pas dans ce mode-là. Il était, en tant que chercheur de sécurité, en train d'essayer de trouver des failles, des vulnérabilités. comme beaucoup de gens le font, honnêtement. Voilà. Mm. C'est un truc qui est vraiment très court.
Beaucoup de gens très white hat aussi, d'ailleurs.
Oui, très, ouais, dans, pour des très bonnes raisons. Voilà, c'est, j'ai appuyé sur ce point. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a trouvé des failles de sécurité. Il y a potentiellement quelques erreurs qu'il a fait de stratégie, on va dire. Notamment, il a publié directement les failles de sécurité publiques. Sans passer par l'étape de prévenir la boîte. Donc ça, voilà, c'est tout un sujet aussi, mais c'est compliqué. Plus, il n'avait pas de licence du logiciel.
Coup dur.
C'est con, quoi.
Donc, en fait, le bilan de l'histoire, c'est qu'il était condamné pour contrefaçon. Donc même pas... Enfin, c'est
contrefaçon.
Contrefaçon, ouais. Pour plus de 800 000 euros d'amende.
Quel crack
en France.
C'est un, ouais, c'est un chercheur français qui était un...
Merde.
Ah ouais, ça fait, ouais, ça fait pas plaisir.
En fait, en vrai, si ça lui arrivait à 20 ans et que maintenant il a l'air d'en avoir quoi, 50, 60, en vrai, c'est un peu un bowler, tu vois. Genre Guy, c'est mon bro de ouf. À sa place, tu vois, genre t'encadres la condamnation et t'es là, genre mec, je suis littéralement dans GTA en fait.
Genre, j'avoue que c'est fou quand même.
C'est genre, je me ferais une chaîne en or avec la condamnation autour.
Bah non, mais c'est le contraste entre, c'est un truc que absolument tout le monde fait, il y a pas l'impression d'avoir beaucoup de stress.
Contrefaçon, c'est ridicule.
Il y a des condamnations.
Et c'était quand qu'il s'est fait condamner?
C'était dans les années 2000, je saurais pas te dire exactement.
Ouais, non, parce que c'était pas la même manière aussi de concevoir l'université, la tech, la contrefaçon m'étonne pas, tu vois. T'as vraiment l'impression que c'est le mot sorti du chapeau en mode, ouais, bah, soit ça rentre là-dedans.
Ouais,
allez,
ouais.
Allez, 800 000 euros d'ailleurs.
Ouais, t'as parlé de 900 000.
Ça, c'est un peu le côté obscur du reverse engineering. Donc voilà, c'est les trucs un peu grey. On parlait aussi du hacking de console, des trucs comme ça. Mais en fait, il faut savoir qu'il y a toute une partie qui est beaucoup moins controversée, entre guillemets, c'est l'analyse de malware. Parce qu'en fait, il y a énormément de chercheurs en sécurité. Leur job, c'est littéralement de récupérer des fichiers malveillants, donc qui sont compilés, donc des exe ou des choses comme ça, et d'essayer de comprendre comment ils fonctionnent, pour savoir ben comment ils agissent, avec quel serveur ils sont en train de discuter, où sont les pirates, quels sont les effets de bord, enfin
qu'est-ce qu'ils récupèrent comme fichier,
voilà, qu'est-ce qu'ils récupèrent comme info, exactement. Et donc t'as énormément de personnes qui sont des professionnels du reverse engineering
et qui sont même employés par les antivirus,
qui sont totalement employés par les sociétés d'antivirus, etc. Bon, là, on peut se dire qu'a priori, t'as un mec qui fait des malwares, tu vas pas porter plainte pour violation de propriété intellectuelle.
c'est pas gentil. J'ai nommé mon malware.
C'est pour ça que c'est moins controversé. Mais il faut savoir que c'est un truc qui se fait. Par exemple, un exemple le plus connu, je pense, c'est WannaCry. Je sais pas si ça vous parle.
Non, moi non.
C'est une affaire qui est passée en 2017, qui a fait pas mal de bruit parce que c'était un des premiers ransomware de très grosse envergure quand même. Très grosse envergure, qui a touché des hôpitaux, enfin voilà, des grosses sociétés en France notamment. Et en fait, on passe rapidement là-dessus parce que c'est un gros morceau, mais c'est un mec qui est un petit jeune en fait, qui est fan de ce sujet-là, qui était dans sa piole en Angleterre et qui a reverse engineeré le malware et qui a réussi à trouver un URL qui était bizarre en fait. Et il s'est dit à quoi ça sert. Ce qu'il allait sur, je sais pas, la OVH ou GoDaddy, il a claim le nom de domaine.
Okay.
Et en fait, sans le savoir, il a complètement arrêté le spread du, enfin le
ouais, parce qu'ils avaient plus
la diffusion
qui parlait,
du malware, parce que on pense maintenant que c'était peut-être un kill switch et que le pirate avait prévu ça, de prendre le nom de domaine si jamais il voulait tout arrêter, tu vois. C'est un exemple pour expliquer que bah en fait c'est des compétences qui peuvent être vachement utiles,
ouais.
Et que là il y a un petit gars tout seul qui, grâce à ces compétences là, a été en mesure d'arrêter un truc vraiment désastreux d'échelle planétaire, quoi. Donc, si YouTube, qui est assez relou à ce niveau-là, vous pouvez laisser les tutoriels qui expliquent ce genre de truc, comment faire du reverse engineering et tout, ce serait bien. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas forcément au courant parce que ça ne vous touche pas. Mais moi, j'ai par exemple une vidéo ou deux de ma chaîne qui ont été supprimées par YouTube.
Ah ouais?
Parce que c'est
parce que ça rentre dans la catégorie du attends, mais t'es en train d'expliquer des choses qui parlent de cybersécurité quand même là.
Ah, c'est chaud.
Donc en fait, tu es complice.
Calme-toi, faudrait pas que les gens en apprennent trop quand même.
Mais voilà, mais on est là dessus.
Non, mais c'est marrant qu'ils fassent ça avec toi parce que t'es turbo vanilla quand même.
Alors c'est pour ça que moi ça me touche très peu.
Tu fais pas des tutos de 4h30 sur Ida Pro, tu vois.
Non, mais oui.
Tu vas l'enfer sur terre, quoi.
Que ça existe. Et je pense que quand tu vas apprendre, t'es content que ça existe.
À la chaîne YouTube de GeoHot.
Tu fais plus de la vulgarisation que du tutoriel.
Mais pour te dire, même moi, ça me touche un petit peu. Alors imagine les gens qui veulent transmettre cette passion-là, et ben voilà, sur YouTube, ils sont pas les bienvenus et c'est bien dommage. Donc voilà, si YouTube nous entend, n'hésitez pas à changer
faire
la politique.
Voilà. Faites des efforts.
Faites des efforts. SVP.
avez le droit. J'adore cet homme.
Mais et voilà, donc c'était un petit rappel. Donc si vous voulez aller voir cette chaîne, qui comme vous pouvez le voir.
Non, vraiment, c'est Mour Benalla, Micode, Pierre Arcade. Il y a que des gens qui vont ensemble finalement.
Non, mais il a tout compris.
Et après, t'as Sarko avec Big Malio, c'est exceptionnel.
Non, mais franchement, c'est du génie. Je pense que cette
chaîne. J'adore cette brochette de miniatures, elle est incroyable.
Cette chaîne a un potentiel de percée qui est non négligeable. Donc si vous avez apprécié les 10 secondes qu'on vous a montré, vous pouvez aller voir cette chaîne et vous abonner.
Mais c'est marrant parce que
et faire un petit bonjour voilà de la part de Underscore, vous faites de la part d'Underscore en commentaire.
Il a l'air de pas vraiment avoir notre âge et pourtant
alors tu t'avances un peu là.
Je m'avance non mais je sais je prends des risques.
Il y avait aussi 3 vidéos j'arrête YouTube. Il est comme tous les autres.
Il a l'air d'avoir les codes de ouf autant dans son montage, dans la façon de mettre le truc stressant au début, de ses miniatures, son machin, ses formats
et surtout moi je trouve ça trop mignon, les gens qui arrivent à s'accrocher longtemps sans forcément avoir des gros résultats, tu vois. Parce que bon, mais il a des interactions en commentaire, il a des 800 vues ou des trucs comme ça, mais
c'est pas si facile, c'est pas ridicule du tout.
Et honnêtement, ça se voit parce que c'est quali quoi. Mais arriver à en faire beaucoup comme ça, beaucoup de contenu, parce qu'il fait pas une vidéo tous les 3 mois, il en fait pas mal. Et donc voilà.
Après, c'est le genre de gars, genre il a un vrai taf en université, il s'en fout et c'est un hobby quoi. Genre, c'est un plaisir quoi.
J'imagine.
C'est ça le soir.
Je serais curieux de savoir
le week-end.
C'est trop stylé.
Passion.
Place à notre invité. Tu sais que techniquement, t'es un peu, moi je trouve, le parrain de cette saison, puisque t'es le premier invité.
C'est vrai.
Donc c'est ça qui est beau. Donc voilà. Et tu vas nous expliquer comment on perd sur Twitch. C'est parti. alors, ce que les gens ne savent pas forcément sur toi, c'est que tu as un petit background en informatique, en fait.
Ouais, j'ai...
Quel est ton parcours ?
J'ai même pas mal de background en informatique, en fait. 5 ans d'études, déjà. Puis j'ai pas mal travaillé dans ce milieu-là. J'ai fait beaucoup de freelance, etc. En l'occurrence, moi, après, j'ai fait un bac S.
Okay.
Et je devais faire des sciences appliquées. Et bah, je n'ai pas fait de sciences appliquées. en fait, il se trouve que quand j'ai visité le DUT de sciences appliquées, qui s'appelait le mesure physique, qui doit toujours s'appeler mesure physique, d'ailleurs, dans le même bâtiment, il y avait le DUT MMI, qui s'appelait avant SRC, pour ceux qui ne connaissent pas MMI. Et j'ai vraiment vu la lumière au bout du couloir. C'est-à-dire que vraiment, j'étais en mode, bah, finalement, les éprouvettes, pas trop pour moi. Non.
T'as vu que des trucs que tu kiffais, quoi.
Et ouais, c'est ça. Il y avait du graphisme, il y avait un peu de développement, il y avait de l'éco, il y avait du market, il y avait de la com. Mais c'est plus le côté design et développement qui m'ont intéressé. Et du coup, j'y suis allé et c'était cool. Pas mentir, c'était pas la formation de la qualité la plus incroyable.
C'est le DUT,
c'est un DUT quoi.
Voilà, c'est un super pas grand chose, mais tu en as pour.
Ouais, non, si t'as les frais d'inscription, oui, qui doivent être 250 euros.
Les DUT, c'est la République. Okay.
Non, donc, mais cela étant dit, j'ai appris plein de trucs.
Oui, la République, c'est.
Honnêtement, voilà, il faut pas. C'est pas. Tout n'est pas acheté du tout, honnêtement.
Non, tout n'est pas acheté du tout, loin de là. Et j'ai clairement fait mes premiers pas avec ce DUT et en développement et en design. Alors, c'est pas tout à fait vrai parce que je tripatouillais sur Photoshop et 2-3 lignes de code avant, tu vois. Mais c'est quand même là où j'ai quand même commencé à prendre du temps pour faire ces choses-là un peu plus en profondeur. Et ça s'est bien passé. C'était vachement cool. Et je crois que c'est à la fin de ma première année de DUT que j'ai commencé à faire du freelance parce qu'en gros, je me débrouillais à peu près en design, je me débrouillais à peu près en développement et je m'emmerdais un peu en cours. Et du coup, j'ai commencé à me dire, bah, je vais faire des sites pour des boulangers, des bouchers, ce que tu veux, des médiathèques, des petits sites vitrines à la con.
Ça, c'est le. Enfin, les gens ne savent pas forcément qu'ils sont passés par ce process-là, mais c'est incroyable, je trouve, quand t'es encore un jeune étudiant et tes potes, ils font du babysitting à 7 balles de l'heure.
Ouais.
Et toi, tu fais des petits trucs freelance, etc.
Ouais.
T'as l'impression d'être le roi du monde.
Ah, quand tu fais ta première facture, là, moi, je me souviens, ma première facture, je suis un plouc. Vous voulez une anecdote marrante? Ma première facture, je l'ai numérotée 42.
Oh là là, mais tout de suite dans l'esprit quoi.
Mais non, mais parce que en fait la base de la réflexion, j'étais en mode en fait si j'envoie une facture avec numéro 1, le mec en face va savoir que je ne suis pas crédible en fait. Alors non, que 42 vrai. C'est vachement stylé et personne ne saura.
Sauf si c'est un gros nerd en fait.
Sauf si c'est un énorme nerd.
Il se dit
il y a peut-être embrouille. Non mais voilà et donc j'ai commencé à faire du freelance à ce moment-là et en fait je trouvais 2-3 clients parce qu'en fait j'avais un bon package, je coûtais rien du tout et je savais vite fait bricoler des trucs et ça fonctionnait quoi. Et puis après j'ai fait une autre école qui s'appelle Éthique à Paris pour le coup.
École pour le coup privée.
École privée.
C'est pas Link aussi qui a fait Éthique.
Link a fait Éthique ouais.
Tout ah à c'est
fait.
Vrai.
Link a fait Éthique. Une promo,
et
New deux promos
aussi.
New
mais Teuf, pourquoi ils font autant de...
Tu sais que Micode a une théorie sur le YouTube game et Twitch, c'est que tout le monde a fait de l'informatique à un moment donné.
Bah,
pas mal de monde.
Alors, soit de l'informatique, soit une école de commerce.
Ouais. C'est les deux choix.
Mais du coup, moi, ici, on reçoit tous ceux qui ont fait un peu d'informatique. Ouais. Et ceux qui ont fait une école de commerce, on leur demande s'ils n'ont pas un pote qui a fait de l'info.
Ah oui, il y a une discrimination du coup pour l'école de commerce.
Non, mais qui viennent avec lui.
Ah oui.
En fait, on essaie de trouver des façons d'inviter les gens qu'on aime. Et du coup, très souvent, en fait, les personnalités qu'on regarde tous, soit c'est des gens qui sont un peu tech, soit ils ont un sidekick ou un quelqu'un qui les aide sur cette partie-là. Ouais. Donc voilà, on va essayer de faire ça cette année.
C'est beau. Et ouais, non, du coup, éthique, où j'ai fait 3 années supplémentaires pour aller jusqu'au master. Et concrètement, c'était plus ou moins le même enseignement que ce que j'avais en MMI. Hein, c'est-à-dire que tu fais globalement du market, tu fais de la com, tu fais du SIA, tu fais du SEO, tu fais du design d'interface, tu fais de l'UX et de l'UI pour ceux qui savent de quoi il s'agit. Tu fais du développement front-end, back-end, tu fais du développement mobile, tu fais un peu tout le spectre. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans l'approche de l'école, même si j'ai pas du tout aimé dans cette école, hein, loin de là, ce que j'ai beaucoup aimé dans l'approche de l'école, c'est que comme tu touches un peu tous les métiers, finalement, que tu finisses designer, développeur, communicant, que tu fasses du SEO, du SIA, en fait, tu sais travailler avec les corps de métiers qui entourent
Parce que t'as au moins un peu d'XP chez tout le monde.
C'est ça. Et c'est ultra important, en fait.
Mais tu comprends ce qui se passe autour de toi.
Bah, c'est ça. Moi, tu vois, j'ai eu des expériences en cours, j'ai eu des expériences après mes cours, pendant mes cours, etc. Quand tu travailles avec un développeur qui a aucune notion de graphisme, vraiment, c'est des coups de coude dans sa gueule, quoi. C'est infernal. Ouais. C'est infernal.
Un petit peu agressif, mais.
L'animation sur le bouton, c'est en option. D'accord, très bien, mais on fait comme ça alors. C'est nickel.
Oui, non, mais c'est des automatismes que tu.
Et inversement. Ouais. Le graphiste qui te sort un truc ingérable des enfers
qui
en mode.
Impossible.
C'est mignon, mais c'est pas des cours d'art plastique ici, quoi, frérot.
Ou alors, tu nous donnes 100 000 de budget et on prend 3 mois. Mais,
ouais, c'est ça.
Mais c'est vrai qu'avoir un bosser avec un graphiste qui sait un petit peu
formater son travail
en bout de chaîne, c'est un bonheur.
C'est extrêmement important. Je trouve. Donc, c'est ça que j'ai aimé dans cette école, et c'est ce qui a permis aussi de développer mes compétences un peu à droite à gauche. Et en fait, il se trouve que. Je raconte quoi du coup? Je raconte mon parcours, tu vois.
Pour moi.
Parle-nous de ta vie, mec.
Fais-nous
voyager.
On est là pour ça. Non, mais t'es passé direct de éthique à full pas propre.
En fait, ça s'est fait en parallèle. C'est-à-dire que j'ai commencé à travailler avec PA. Je n'étais pas encore à éthique. J'étais en deuxième année de DUT à Grenoble. Okay.
Ah, sérieux? Ah, déjà?
Ouais. L'histoire de notre rencontre, c'est que lui, il partait d'Eclipsia à l'époque, pour ceux qui connaissent Eclipsia. Qui est une espèce d'incubateur. Ouais. Qui est une espèce d'incubateur de streamers qui. Tous les plus gros streamers d'aujourd'hui, ou en tout cas une bonne partie, sont passés par Eclipsia, ou ont connu l'école Eclipsia de près ou de loin. Kameto, Zerator, Domingo, pour ne citer qu'eux, mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres, tous ceux qui ont fait Solary juste après aussi, enfin une bonne partie d'entre eux. Bref, donc il était chez Eclipsia, et il décide de prendre son indépendance, de partir d'Eclipsia. Moi, en l'occurrence, c'était une époque où je suivais pas mal Eclipsia, et je mettais ça en fond, un peu comme tout le monde quand tu consommes du stream, quoi. Et il part d'Eclipsia, et il se lance en indépendant. Et moi, à cette époque-là, je faisais des sites vitrines, quoi, des trucs de boucher, de boulanger. J'ai jamais fait ni boucher ni boulanger, mais c'est mes exemples.
Très peu de Twitch sur les bouchers, a priori.
Très peu de Twitch, influenceur boucher. terrible. Et non, il part du coup d'Eclipsia, il se lance en indépendant, et il demande sur Twitter, il dit qu'il aimerait bien avoir un site, en gros. Je crois qu'à l'époque, seul Zerator avait un site, et c'était un truc qui était plus ou moins innovant, tu vois. Tu te disais, ok, le mec a un site, il est crédible, il est indé et il a un site. On est en 2015. Ouais.
Et donc, c'est sur un tweet que tu rencontres PA, en fait.
Non, mais c'est pire que ça. C'est mon petit frère qui me dit, bah, t'es con, tu devrais lui envoyer un mail. Je fais, mais comment ça? Pourquoi? Et il me fait, bah, envoie-lui un mail, ça coûte un.
C'est jamais, ouais.
Ouais, t'as pas tort. Et en fait, j'ai vachement bien négocié mon mail, parce que je lui ai dit, écoute, frérot, moi, je sais faire ça. L'avantage, c'est que du coup, t'as pas à prendre d'autres gens. Je travaille tout seul, je te fais un truc clé en main. Je te demande pas d'argent. Par contre, je veux tous les contacts du milieu. Et il a dit banco.
Des barres. Quel génie. Attends, mais ok. Attends, mais là, il te renvoie un Excel avec.
Non, il me renvoie pas un Excel avec.
Le 06 de Zerator.
J'imagine en train de call tout le Twitch.
Mais il y avait pas le RGPD à l'époque. Non, c'est pas comme ça que c'est passé. Non, ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, moi, j'étais assez confiant sur ma capacité à faire un truc bien. Et j'étais assez confiant sur ma capacité à convaincre les autres streamers qu'il fallait qu'ils aient le même site que Domingo. Et en fait, le plan, c'était que quand un autre streamer allait voir Domingo en mode, c'est qui a fait ton site? Bah, voilà.
Du coup, ouais.
Et c'est ce qui s'est passé, en fait. C'est ce qui s'est passé, puisque après, j'ai fait le site de Gotha, j'ai fait le site de Zera, j'ai fait, fait le site d'autres gens, de Bruce Granet, que j'ai fait, j'ai travaillé pas mal en freelance aussi pour des agences de talent, et notamment celles qui étaient en contact avec PA, qui montaient des événements à l'époque. En fait, le truc, c'est qu'on était à une époque où tout passait beaucoup par des sites web. Ouais. Parce que les plateformes comme Twitch n'avaient pas grand chose à offrir. Les plateformes tout court n'avaient pas grand chose à offrir, que ce soit des expériences de gamification, que ce soit des trucs, il y avait rien. C'était
du
néant.
Du coup, c'était, alors moi, j'ai pas connu ça, honnêtement, mais genre tu passais par des extensions, des trucs comme ça.
C'était l'époque où les streams
n'avaient pas, ouais, pas du tout d'extensions.
C'était du embed Dailymotion sur des...
Alors, c'est ça? C'était, quand PA est parti d'Eclipsia, Eclipsia était encore chez Dailymotion, je crois. Ouais. Ils allaient passer sur Hitbox. Et lui,
oh,
allait
putain,
directement
Hitbox.
Sur Twitch. Ah, oui, Hitbox, oh, a existé. Pour ceux qui ne connaissent pas Hitbox,
j'ai pas la ref, je me sens bébé.
Attends. Grand bien vous fasse. C'est.
Ouais. Qubi?
Quoi?
Qubi?
Qubi? Non, Qubi, je connais pas.
Ok, c'était un mec qui gérait Hitbox en France. Okay. Mais tant qu'on est dans les refs, tu vois.
Ouais, les refs sombres que personne ne comprend.
Hitbox, c'est une plateforme de streaming comme Twitch. Qui a essayé d'être Twitch dans un timing où en fait les gens partaient de Dailymotion parce que Dailymotion, je crois qu'il y avait des soucis de CPM. J'en sais rien, j'ai jamais travaillé avec Dailymotion non plus, en final. Ouais. Mais je crois qu'il y avait des problèmes de CPM, c'était compliqué, etc. Et du coup, Hitbox s'est positionné en mode, non, mais vous inquiétez pas, les gars, Dailymotion, c'est nul, mais nous sommes là. Et,
bon, personne s'en souvient, mais
il se trouve qu'ils ont signé quelques contrats d'exclusivité, notamment avec Eclipsia à l'époque, etc.
Attends, mais j'ai un sentiment de déjà vu là quand même. Ouais. De ouf.
Ouais, c'est marrant.
C'est un logo vert, des petits cubes verts. Xbox.
Moi, j'ai un sentiment de déjà vu de il y a pas très longtemps, tu vois, genre une plateforme qui veut concurrencer
un autre.
Qui commence
par un M.
Ah oui.
Voilà, qui essaye de signer des contrats d'exclus sur lesquels va Hard Disk d'ailleurs.
Moi, je suis. Franchement,
t'es parti dessus, toi.
Ouais, j'ai fait Xbox et Mixer. No joke.
C'est vrai.
En fait, moi, si tu veux, je. Bon. Pour la faire courte, sur les plateformes, je considère que je suis marié à Sonper et que si j'ai eu une opportunité à prendre parce que c'est un type de contenu, à l'époque je faisais pas du live.
Ils t'ont proposé 10 balles et t'y allais?
Il y avait un ticket restaurant, on va pas te mentir. Non, mais en gros, si tu veux, il y a le côté, t'as l'occasion d'être un gros poisson dans une petite mare. C'est pas souvent que ça arrive sur une plateforme.
C'est vrai.
Et donc, moi qui faisais pas trop de live à l'époque, je me suis dit, bah, je vais tenter, on sait jamais.
Ouais, parce que tu peux être mis en avant de fou et
là où tu veux pas forcément l'être ailleurs. Donc moi, je suis très du genre à faire des infidélités aux plateformes tant que j'ai pas de contrat d'exclu. Twitch, contactez-moi. parce que je m'en fous. En fait, je vais là où j'ai le plus à prendre.
T'as raison. Enfin, tu vois. T'as raison. J'ai l'impression d'être un bébé parce qu'il y a plein de gens qui connaissent Hitbox, apparemment.
Ah ouais.
Et owned.tv, il connaît le chat ou pas?
Ah là, ils font moins les malins.
Là, ils font moins les malins.
Je connais pas non plus.
Et Gamers Origin.
Donc ça, c'est un peu toute ta partie. Donc freelance, tu bosses pour plein de streamers, etc. Et alors, il y a un truc que du coup moi j'ai eu connaissance parce que j'avais discuté avec toi en passant sur Énergie, je sais pas si
It's Music Only, on rappelle
It's Music Only à l'époque où Popcorn, ça s'appelait même pas Popcorn,
ah bah non, ça s'appelait Domingo Radio Stream.
Domingo Radio
Stream. Ah oui, putain.
Et ce n'est pas la même émission du tout d'ailleurs. Énergie nous demande pas des droits quand même.
Non, quand même.
T'es passé là-dessus, toi?
Mais je suis passé là-dessus, ouais. Pour raconter mon enquête à l'île Maurice.
Oui, c'était pour ça.
Et voilà. Et c'est là où je t'ai rencontré, en fait. Ouais. On a discuté. Et justement, tu m'avais parlé à l'époque d'un projet dont pas mal de gens n'ont pas connaissance, je pense, qui s'appelait Ecross.
Ouais.
Qu'est-ce que c'est que, en fait, c'était une start-up?
Ouais, c'était concrètement une start-up.
Qu'est-ce que c'est que le projet? Oh là là.
C'était tellement bizarre de voir
PA,
ça.
Tu es bien là. Oh, qu'est-ce que t'es bien là-dessus.
C'était quoi le concept de Cross?
Le concept de Cross, je me permets une micro aparté, ouais, pour arriver jusqu'à Cross, ouais, et je pense que ce sera plus clair comme ça. En gros, du coup, j'ai fait plein de sites pour plein de streamers à droite à gauche, mmh, et PA est revenu me voir en me disant, ça fait un an et demi que t'as fait mon site, il commence à être un peu outdated, est-ce que t'as quelque chose de nouveau à proposer, tu vois? Et je lui dis, ouais, j'ai mieux que quelque chose de nouveau, laisse-moi carte blanche et tel budget, et je vais te faire un truc vraiment sympa. Et c'est à ce moment-là que j'ai arrêté de faire du développement, c'est à ce moment-là que j'ai arrêté de faire du design, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire du management.
T'es devenu entrepreneur.
Ouais. Ça a commencé par là, on va dire. Okay. Et en fait, j'ai récupéré mes potes, notamment d'éthique, avec qui je travaillais très bien, et qui sont très très bons encore aujourd'hui, et qui continuent d'être très très bons. Et j'ai réparti le budget qu'ils m'avaient mis à dispo, et on a fait un site qui était pour le coup ultra gamifié, où il y avait, vous voyez tous les systèmes qu'il y a sur Twitch aujourd'hui, notamment de prédiction, de sondage, de drop, etc. C'est les trucs qu'on avait sur le site de Domingo en 2016, en fait. En tout cas, c'est les trucs qu'on développait. Donc, on faisait un écosystème ultra gamifié pour fidéliser l'audience. Alors aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens.
Après, vous l'avez envoyé au PDG de Twitch, vous avez dit, hey, vous avez vu ce qu'on fait?
Jeff.
Et après, 6 mois après, tiens, des nouvelles features sur Twitch.
Ils ont bien traîné, hein, parce que je crois que les sondages, ça a dû arriver peut-être en fin 2018, par là, tu vois. Et fin 2018, ça faisait... un petit moment qu'on avait arrêté le site web, tu vois. En fait, il y a eu une espèce de période où, comme Twitch, il n'y avait pas grand monde dessus, à part Zerator qui était parti d'Eclipsia un peu avant, Domingo et 2-3 trucs perdus, et c'était une époque où il n'y avait que du League of Legends. c'était presque mieux de rassembler tout le monde à l'extérieur de Twitch et que Twitch soit juste un player, tu vois. Et puis est venu le moment où sur Twitch il commençait à y avoir tellement de monde que ça servait plus à rien d'être indépendant à côté avec un site et du coup on a arrêté l'activité.
Et tu pouvais vraiment bénéficier d'être sur la vitrine, quoi.
C'est ça. Bref, en parallèle de ce truc-là, où on se rendait compte qu'on avait quand même des bonnes capacités techniques à monter des projets et que ça fonctionnait bien, on s'est penché un petit peu sur les. Parce que bah, j'étais en plein dans mes années éthiques, donc c'était concrètement. Enfin, c'est que ça, éthique. C'est on, tu viens de voir avec des problèmes éthiques, trouve des solutions.
Et, des problèmes éthiques.
Des problèmes éthiques, tout à fait.
J'ai pas pu m'empêcher.
et en fait, on a des discussions avec PA et la petite équipe de gens qui travaillaient avec moi sur le site sur concrètement, c'est quoi les problèmes de l'influence aujourd'hui. Et en fait, on se rend compte qu'ils passent leur temps, les influenceurs, à prendre des captures d'écran de leurs statistiques pour les renvoyer à leurs agents.
Vrai.
Pour justifier vrai. Des statistiques vendues sur des OP.
Spoiler,
ou genre,
c'est encore le cas.
Spoiler, c'est encore le cas, tout à fait.
Sauf que maintenant, on a des stagiaires.
C'est exactement ça. À l'époque,
c'est,
il y avait
pas c'est entièrement vrai. Hein. Tu peux être choqué. Mais...
Ouais, je fais mes captures d'écran.
Fâchez-vous.
Donc, le postulat de Cross, de base, c'était ça. Il faut qu'on éradique les captures d'écran, parce que c'est pas possible. Et du coup, on a lancé une plateforme qui était à destination des agences, des marques et des gens concrètement qui géraient des opérations de communication avec des influenceurs pour rassembler les statistiques dont ils avaient besoin et créer des rapports ultra personnalisés et personnalisables pour les envoyer aux marques avec lesquelles ils traitent. Voilà.
Beau gosse.
Bah propre.
Voilà, voilà.
Franchement, problème, solution. Et moi, je me souviens, je t'avais testé.
T'avais testé ?
Ouais. J'avais peut-être été bêta testeur en train de
ça. C'est possible.
Et c'était propre, hein, franchement.
Ouais,
le design et tout, ça marchait, quoi.
Ouais, ça marchait. Bah, c'est moi le design. Voilà.
Ah.
C'est moi. C'est,
non, mais propre.
Je faisais encore un peu de
et
vrai.
Donc, je vois les derniers tweets 2019.
Eh bah oui, ça s'est arrêté. Et tu veux que je te dise un truc marrant parce qu'on parlait de stagiaires juste avant. Ecross s'est arrêté parce qu'on s'est rendu compte que ça coûtait moins cher aux agences de payer un stagiaire que de payer Ecross. Voilà.
Ouais, bah, littéralement, ouais.
C'est terrible comme constat.
Mais c'est, vrai. C'est terriblement vrai encore aujourd'hui. Ouais. Bah c'est ainsi. Alors cela étant dit, ça m'a appris beaucoup de trucs. Vous voulez une deuxième anecdote sur Ecross, c'est que du coup quand j'ai terminé mes études à éthique, on était encore en plein développement de Cross. Ouais. J'étais en plein développement chez PapProd aussi. Et du coup, quand j'ai soutenu mes projets de fin d'année, je sais plus exactement comment c'était fait, mais concrètement dans ce que j'ai soutenu, bah il y avait ces deux projets là qui coexistaient à part entière. Et j'ai eu une pas très bonne note. Oui, je crois qu'ils m'ont mis 8 ou peut-être 9 sur ma soutenance de fin d'année de 5e année.
Et ils t'ont pointé ce problème-là ?
Et ils m'ont dit, tu n'y arriveras pas si tu as deux entreprises.
Ok.
Et j'ai dit, allez vous faire foutre. Puis 6 mois après, on a arrêté course.
Ah ouais, marrant.
Et alors sur le coup, vraiment, quand ils m'ont dit ça, j'y croyais pas du tout. Ouais. Putain, allez vous faire foutre vraiment avec vos conneries, vous m'emmerdez. C'était quand même vrai. Hein. Je pense pas que ce soit fondamentalement impossible, mais dans le contexte dans lequel on était,
ouais,
et pour ma personne, je pense qu'ils avaient raison.
Ok. En fait. Voilà. Ok, ça m'intéresse comme retour parce que potentiellement nous, on prépare plein de trucs dans tous les sens.
C'est une sorte de marque de fringues.
Non, ouais. non mais tout simplement, on est tous là à avoir plein d'idées à essayer de lancer des trucs. Ouais. Effectivement, il y a souvent cette question de à quel point tu peux faire des choses en parallèle. Il y a quand même, il y a des gens qui y arrivent. Il y a des noms dans le Twitch game de gens qui arrivent à monter 5 ou 6 boîtes.
Oui, c'est vrai, hein. C'est que des gens qui ont un alter ego. Comme PAA avec toi et quelqu'un sur qui ils peuvent se reposer pour pousser les projets annexes.
Ouais.
Parce qu'en fait, il y a la question du management qui se pose à un moment donné et quand tu te professionnalises en tant que streamer, en tant que youtubeur, c'est toujours hyper compliqué parce que c'est pas forcément parce que tu rajoutes, et nous d'ailleurs, on s'en rend compte au bureau en ce moment, c'est pas forcément parce que tu rajoutes des humains que tu rajoutes de la productivité en fait.
Oui, c'est même souvent l'inverse.
Ouais, parce que en fait.
C'est un doux mélange, je pense.
C'est un entonnoir,
c'est
quoi.
C'est très dur.
Plus t'as d'humains, plus t'as de friction,
plus t'as de gestion, plus t'as de bordel, plus t'as d'inertie.
Donc, ouais, forcément.
Mais alors, du coup, c'était une expérience de start-up, une heure, parce que
ouais, complètement.
De A à Z, ouais. J'ai envie de dire, comme 8 start-up sur 10, en fait, qui vivent pas forcément les années 2, 3, 4. Ouais. Et du coup, c'est quoi les trucs que t'as tiré de cette expérience-là?
Beaucoup de choses. Ouais. Ouais, vraiment beaucoup de choses. Premier truc que j'ai appris, et c'est vraiment un truc d'entrepreneur à la con. C'est que je suis insupporté par les business models à base de levée de fonds. Voilà, vraiment, ça m'insupporte. Désolé pour tous ceux qui cherchent à lever des fonds.
Non,
c'est
compliqué.
En fait, le monde de la startup, c'est un monde où t'es un peu obligé de faire ça parce que le but, c'est de croître le plus vite possible
pour au lieu de chercher à amener de la valeur au marché.
C'est ça. Et en fait, moi, ça me gonfle. Ça me gonfle parce que c'est en termes de gestion déjà, c'est abominable parce que tu passes plus de temps à chercher de l'argent que à travailler réellement. Donc, c'est un peu contre-productif de base.
Et toi, t'étais dans ce cas-là?
Bah ouais. En fait, le truc, c'est que si on voulait vraiment continuer Ecross, il aurait fallu lever des fonds. Il aurait fallu lever des fonds, passer la seconde, aller chercher beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients, baisser le prix, quitte à être à perte, mais tu lèves des fonds, donc tu t'en fous.
Ouais, c'est ça.
La startup life. et peut-être que dans 5 ans, on serait rentable. Bon, on s'est regardé avec Père, on a dit on a peut-être mieux à faire, en fait, ouais, finalement. finalement
c'est-à-dire que la levée de fonds en soi n'est, peut avoir du sens, en fait, dans certains cas, quand même. Genre, tu penses il y a certains business models où, de base, pour avoir le droit de rentrer dans le jeu, il te faut 20 millions.
Ouais.
Donc tu vois, il y a des cas quand même où ça peut avoir du sens, mais effectivement, je comprends tout à fait ce que tu dis.
La culture startup dont il parle, ouais. C'est vrai que c'est assez nouveau.
C'est une extrémisation de ce truc-là où, en fait, si t'as pas levé, t'es personne, tu deviens quelqu'un dans le startup game.
Et surtout, il y a des gens dont le business model, c'est de flipper des boîtes qui n'ont jamais été rentables. C'est devenu un délire, quoi.
Ouais, c'est un peu ça. Et moi, je trouve ça regrettable parce que je trouve ça tellement plus simple et vraiment de monter une boîte quand t'as la chance d'avoir des revenus qui font une croissance un peu linéaire et qui te permettent du coup de faire croître tes équipes de manière linéaire, tes projets de manière linéaire.
Tout est plus lent, mais c'est plus stable.
Ouais, et t'es pas forcément lent, hein, d'ailleurs. T'es pas forcément lent parce qu'encore une fois, quand tu débarques, que t'as levé 1,5 million, 2 millions, 4 millions, 5 millions, 10 millions, 150 millions, 400 millions en fonction de quitter.
T'accordes pas la même valeur à chaque euro.
Ouais,
déjà,
t'accordes pas la même valeur à chaque euro. Tu gâches beaucoup d'argent. C'est souvent le cas. Et ça demande ça demande des vraies bonnes capacités de réussir à gérer un budget de 400 millions, enfin, ou même de 1 million, tu vois.
Oh, je pense que je me débrouille, ouais.
Ah oui, non, mais t'arrives à le cramer, l'argent, mais c'est bien le problème. c'est justement le problème, c'est comment tu le crames et pourquoi tu. Pardon.
Non, mais Jean, qui est dans le chat, est tout à fait d'accord avec toi.
Merci.
Qui est le président de Frame. Ouais. Donc, il faut le dire que c'était un épisode qui t'a quand même vachement servi. Ouais. Aujourd'hui, bon, même si c'est deux games différents, genre le développement d'un service web et la production de visuels, est-ce qu'il y a des trucs que t'as pu tirer?
Le point commun évident, c'est le management. Vraiment, c'est une évidence. Déjà, il faut savoir que nous, les premiers bureaux qu'on a pris avec Perrin, on les a pris pour Recross. Okay. Parce que, en fait, moi, c'est le moment où je terminais mes études. Il se trouve que l'équipe de Cross était composée de 1, 2, 3. 3 amis et Titien à moi. En plus de PA, quand on a commencé. Ah bah, Romain. Salut, Romain.
Mais oui.
Attends, c'est une vidéo de 2019 où, effectivement, ça avait l'air.
Ça, c'est nos premiers bureaux, ouais.
Ça avait l'air voilà, d'une petite start-up qui est
là. Neil, là, il travaille toujours avec nous, mais il ne travaille plus du tout chez Cross, du coup.
Ok. Ouais. Ah oui, c'est ce que j'ai te demandé. Vous avez quand même pu récupérer des talents.
Juste Neil, en l'occurrence, parce que les autres, c'est Romain.
C'était trop dev.
C'est vraiment un dev. Là, aujourd'hui, il travaille chez Aircall.
Il a une magnifique moustache, monsieur.
Et lui aussi, il travaille toujours avec nous, mais alors, eux, c'est pas Cross, du coup.
Il a toujours la moustache ou pas?
Il a, ça dépend des jours, parce qu'il fait différents styles et tout ça.
Très facile.
Mais bref, peu importe. Jérémy, big up à toi. qu'est-ce que je voulais raconter? Oui, non, du coup, on a pris ces locaux pour Cross, on a ramené les gens de Paprod dedans, donc on a eu une espèce de mash-up qui nous permettait de gérer tout ça. Et en fait, les enseignements qu'on a eu avec Cross, parce que c'est les gens qui travaillent dans l'entreprise, c'est des gens, du coup, qui étaient plus âgés que les gens qui travaillaient chez Paprod, à ce moment-là, qui avaient plus d'expérience, qui avaient plus de besoins, plus de demandes, etc. Ça nous a permis d'anticiper les problèmes de Paprod qu'on nous rencontre aujourd'hui ou sur l'année dernière, etc. Et ça, vraiment, c'est très bénéfique.
Un crash à 400 à l'heure avec une startup, et du coup, maintenant, tu vois un peu plus les obstacles.
Ouais, c'est super marrant, quoi. Enfin,
c'était pas planifié, hein.
Oui.
Non, mais tu t'en es très bien sorti, quoi.
Les pertes sont jamais agréables, par exemple, tu vois, c'est le genre de truc que tu peux éviter. Moi, je te dis ça, par exemple, sur des projets que j'ai pu faire qui se sont pas très bien passés, voilà. La leçon. Elle fait un petit peu mal.
Oui, mais la leçon, elle marche bien parce qu'elle coûte cher.
Voilà, c'est ça.
En vrai.
On est d'accord.
Ouais.
Tu vois.
Je crois qu'on en a discuté il y a pas longtemps. Et effectivement, ce truc-là, oui, les échecs, c'est important pour apprendre et
bien
tout.
Sûr.
C'est un truc, c'est un petit peu rabâché et tout.
S'il coûte pas trop d'argent, c'est mieux.
Ouais, voilà.
Bah, oui, mais j'allais dire justement, les échecs, il faut qu'ils coûtent pas mal d'argent pour que tu t'en souviennes bien. Ça t'aide à faire rentrer l'information.
Quand t'as acheté du Dogecoin pour 20 000 balles. Pas une super idée, mec.
C'est pas la meilleure.
Dommage. Bon, depuis, il faut quand même le dire, tu t'es quand même pas mal refait.
Ouais.
Enfin, vous êtes pas mal refait avec.
On était pas ruinés non plus. Hein.
Oui, non, mais.
même Bidonville, Brésil.
Et vous savez pas par quoi je suis passé.
Je connais pas ma vie. Non, mais dans les projets, je veux dire, dans la réussite des projets, avec Popcorn, tout simplement, qui, on peut le dire, est le plus gros talk show français du web.
Ouais.
Je
crois en tout cas.
Non, mais je pense que c'est pas une surestimation du tout. À l'époque, ça existait genre littéralement pas, en fait, les talk shows sur internet. Je pense que vous êtes le premier. Ou alors, toute cette forme-là.
Ouais.
Sur du contenu grand public et pas gaming.
En direct, de cette manière-là, redistribué, enfin, reséquencé, redistribué de cette manière-là, non, je crois pas. Enfin,
ça, c'est nouveau quand même. Est-ce que ça te met une petite pression, le fait d'être on top of the game?
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
En vrai, pas tant. Bon, pas tant parce que nous, on a une manière de fonctionner avec PA où juste on trace notre route, tu vois, on va là où ça nous intéresse. Si on est en haut, tant mieux. Si on est en dessous, bah c'est chiant, mais juste on va là où on pense que c'est bien d'aller. Ça se passe bien, tant mieux. On a eu aussi des moments où c'était compliqué, tu vois. Quand on faisait Énergie à l'époque, ça a été compliqué sur Twitch. La vérité derrière le projet Énergie, tu vois, c'est que l'ambition qu'il y avait derrière, c'était dans tous les cas une bonne opération parce que de la prise d'expérience, etc. Ouais. L'idée de fond, c'était de se dire, ok, est-ce qu'il y a un monde où on arrive à arrêter cette guerre inutile entre les médias traditionnels et Internet, et de montrer qu'il y a des choses bien d'un côté et de l'autre, et des choses mauvaises d'un côté et de l'autre. On n'y est pas arrivé.
T'y allais, t'as vu les choses mauvaises, t'es revenu.
Cette époque-là, elle m'intéresse, parce que moi, je l'ai vu en tant que spectateur. C'était quoi les difficultés que vous avez rencontrées direct quand vous êtes arrivé, vous avez parlé avec Energy? C'était quoi, qu'est-ce qui a fait, en fait, que ça a été difficile?
Il y a plusieurs choses. Je pense que le truc le plus difficile qui nous a empêché de développer du contenu pertinent sur Énergie et de faire un vrai crossover, tu vois, avec Internet, avoir un truc un peu cohérent d'ensemble, c'est vraiment la quantité astronomique de musique et de pub par émission.
Ah oui,
en
exact.
En fait, au-delà, parce que c'est même pas tant une question de durée, tu vois, sur une émission de 4 heures sur Énergie, j'avais compté, en moyenne, t'as entre 30 et 45 minutes de pub. Ça va.
Quand même. Hein.
C'est beaucoup, mais
ouais.
Ça va.
Oui.
Enfin, c'est ouais. Moins d'un quart du contenu.
Ça peut se négocier, on va dire.
Et t'as quand même un contenu de 4 heures. Ouais, tu vois. Ouais, donc, ouais. Quelque part, il te reste quand même plus de 2h45, ouais. 3h. Même en passant les musiques, il te reste au moins 2h45 okay. De contenu.
Vas-y, c'est quoi qui est chiant alors? C'était pas ça.
Mais ce qui est chiant, c'est qu'en fait, du coup, t'es coupé en permanence. C'est-à-dire que tes séquences, elles durent maximum 10 minutes. Mais maximum!
Ah, ouais. Tu fais que des segments, en fait.
Et c'est infâme. Tu peux en pas fait, avoir... tu ne peux pas développer quoi que ce soit en 10 minutes.
Okay.
Du coup, tu te retrouves à faire vraiment du snack un peu, tu ouais. Vois, du contenu stack
des
ou...
petits trucs. Mais ça se voit d'ailleurs dans les formats du coup qui viennent mais... de ces médias là hein.
Ouais, c'est très
les deux sont
il y a
liés,
jamais
en fait.
De profondeur tu vois
ouais, oui, c'est ça.
Tu peux pas et c'est dommage parce qu'en fait les gens étaient enfin c'est super cool pour les invités de se dire ok c'est prestigieux on va à la radio, c'était super cool pour notre audience qui disait c'est prestigieux ils ramènent des invités cool à la radio mais tu t'avais jamais le temps de développer vraiment les conversations que t'avais envie d'avoir ou les séquences que t'avais envie de faire dans ces conditions là donc ça c'est le vrai problème de
bon, ce problème que vous avez plus du coup puisque maintenant vous êtes full indé sur Popcorn. C'est quoi tu dirais le plus gros fail le truc le plus compliqué que vous avez eu en live à gérer parce que toi t'es quand même dans les coulisses donc t'es un peu le cerveau.
Est-ce qu'il y a une émission qui a failli pas se faire 10 minutes avant, tu vois, c'est ça.
Est-ce qu'il y en a vraiment une qui a failli pas se faire 10 minutes avant? Je suis pas sûr. Alors il y a déjà eu des énormes problèmes. Il y a un truc très drôle, il y a une anecdote très marrante. Quand le live s'est lancé, vous devez tous savoir ce que c'est le live. Quand le live s'est lancé et que bah, ça a fait une purge absolue, on en a parlé sur Popcorn le lendemain ou le surlendemain du lancement, je sais plus. Ouais. Et super marrant, on commence à parler le live et là, un décalage son. Mais vénère.
Arrête.
De genre 2 secondes.
Le sketch.
Oh non.
Et le chat qui est en mode Clément, génie, etc. J'étais en mode, mais c'est pas drôle en fait, là. Je rigole pas du tout, moi. Là. Moi, je suis pas en train de me taper une barre, j'ai mis un décalage son pour rigoler. Et pas du tout. Mais alors, vraiment, pas du tout, du tout une blague, quoi. J'étais en mode, non, ce n'est pas normal, là, ce qui se passe.
Les gens, ils sont en mode galerie.
Et je crois que. Alors, j'ai beaucoup de chance déjà parce qu'on est entouré par des équipes techniques qui savent vraiment ce qu'elles font. En l'occurrence, dans le studio dans lequel on était, le son passe par un système. Enfin, il passe par le réseau local. Il se trouve que je crois qu'il y avait une cloque qui s'était décalée.
Ok.
Pur hasard, une énorme coïncidence.
Pile au moment où vous êtes en train
aucun sens. Donc ça, c'est des petits coups de flip et ça arrive. Il y a eu d'autres coups de flip dans Popcorn. Je saurais pas te dire quelle émission, de quelle saison c'était, mais c'est déjà arrivé qu'en pleine émission, on change le PC qui stream. Parce que
carte graphique cramée.
Ouais. Le stream se coupe. Tu te dis qu'est-ce qui se passe? T'essayes de rallumer le PC.
Ah oui, d'accord.
Il marche pas. Je crie sur le chargé de prod et je lui dis va chercher un PC maintenant. Et
attends, mais comment c'est possible? Parce que quoi? Alors peut-être que c'est que je projette notre façon de fonctionner avec la vôtre qui est pas la même parce que
nous dans les régies qu'on utilise en tout cas pour une production comme Popcorn, t'as un PC qui est du coup le mélangeur qui fait le compositing vidéo et qui envoie ce mélange vidéo un autre PC qui lui s'occupe uniquement d'encoder et d'envoyer sur Internet.
Et c'était celui-là qui avait cramé. Ouais. Ok.
C'est ça. Et c'est justement pour éviter que ce PC la crame qu'il est à part. Oui. En fait, parce que si t'as ton mélangeur qui crache et que c'est ton mélangeur qui est aussi le PC de stream, bah c'est fini. Hein. Ouais. C'est
mais du coup, est-ce que du coup, ça m'intéresse de savoir si après cet événement fortuit, vous avez prévu du coup un backup. Est-ce que vous avez...
En fait, l'événement était fortuit et à la fois un peu prévu parce que je savais qu'il y avait un PC à 5 mètres qu'on pouvait aller chercher et c'était déjà prévu, tu vois, quelque part. Il n'empêche qu'on a eu une coupure de 3-4 minutes, il me semble, quand même, et que c'était pas très très agréable. Mais non, c'est des trucs où tu peux rien y faire. Il y a une réalité aussi que les gens connaissent pas trop dans la production du visuel et sur Internet, c'est que nous, on travaille avec des mélangeurs qui sont des mélangeurs software, ce qui est pas du tout le cas en télé. En télé, ils utilisent des mélangeurs qui sont des mélangeurs physiques, qui coûtent le prix d'une maison, concrètement, et qui demande aussi beaucoup plus de ressources humaines pour être exploitées. Et c'est pour ça qu'on les utilise pas, parce que on n'a pas l'argent pour payer les ressources humaines et on n'a pas l'argent pour payer les mélangeurs. Et globalement, tu gagnes un petit peu en fiabilité, mais pas beaucoup. Donc en fait, c'est des aléas auxquels on est habitué. C'est-à-dire qu'on sait qu'on utilise des mélangeurs software, on sait qu'on utilise concrètement des technos qui tournent sur Windows 10. Donc t'es en mode bon, bah c'est Windows 10 quoi. Donc à tout moment, ça peut merder. Et t'es au courant. Tu sais que t'as
la petite mise à jour qui se met. Ça nous est déjà arrivé. La petite mise à jour juste avant le
redémarrage.
Juste avant l'émission, tu vois. Ça va.
Putain. On va 32. 33.
C'est un peu long, ouais.
Et donc, tu sais, en fait, quand tu travailles avec du matériel qui est du coup pas aussi fiable qu'à la télévision, que t'as un risque, qu'il y a un film, mais qui existe. Et donc, tu prévois d'avoir un second PC dans le coin qui peut remplacer le premier si jamais t'as un souci. Et
écoute,
malheureusement,
très inspirant.
Tu peux pas en faire beaucoup plus. Mais non, mais tu peux pas faire beaucoup plus, en fait, à part acheter un mélangeur physique, avoir une régie qui fait 150 mètres carrés.
Et il y a un côté aussi où, du coup, ça fait partie de l'ambiance.
Ouais.
C'est possible que ça crache, que ça lague. Il y a un côté
les gens le pardonnent.
Voilà, authentique quoi. On se prend pas pour la télé non
on
plus.
On a
quoi.
Pas de tricaster. On est.
Ouais, c'est ça. Mais toi, du coup, c'est quoi en fait, du coup, ton rôle? T'es monsieur régie technique. T'es quoi? Tu gères plus la
à
partie.
À quel moment de ma semaine?
Genre le jour J, par exemple. Genre vraiment le
jour
au
J,
moment
popcorn.
De l'émission.
Moi, en gros, le popcorn, c'est à 20h le mardi. Moi, j'arrive en général entre 14 et 15h sur place. Je vérifie que le studio a été bien installé par la manutention le matin, parce qu'il faut savoir que le studio de popcorn est monté et démonté chaque mardi, comme tous les plateaux en fait, de partout à la télé, n'importe où, sauf les plateaux d'info et de JT, mais ça c'est autre chose. Donc je vérifie que le plateau est bien monté. En général, il y a PA qui arrive après dans ces eaux-là, il y a Florent du coup avec qui on travaille, qui est chargé éditorial, responsable éditorial de l'émission. On se pose ensemble. On finit éditorialement le travail, on vérifie que ça convient, etc. Une fois que ça c'est fait, il y a toute la partie, on demande à nos graphistes d'exporter les assets au bon format, au bon truc, au bon machin. Et puis en fait, après, je passe pas mal de temps avec la technique aussi. Il y a plein de petits trucs à régler, il y a plein de petites spécificités à chaque émission. C'est pas du tout la même chose quand il y a deux semaines on reçoit Cyril Gann et qu'il met des coups de poing dans une machine à coups de poing que cette semaine où on fait un times up à peu près au même endroit. Mais c'est pas la même manière d'éclairer, c'est pas la même manière de filmer. Donc c'est des petits trucs comme ça que tu vérifies au compte-goutte, etc. Et puis une fois que l'émission commence, alors j'en parlais à Ardis juste avant. Non, c'est pas Ardis, c'est un de Mathieu, je crois.
Mathieu
qui travaille avec toi du coup. On parlait juste avant que Florent arrive, c'était moi qui topais tout le temps en régie. Alors topé, c'est que concrètement tu fais les tops, donc le 5, 4, 3, 2, 1 à toi, ce genre de truc.
C'est pour envoyer un jingle ou un asset ou un truc comme ça.
C'est ça, alors là c'est plus PA qui l'a fait, mais typiquement quand on a un jingle, il connaît pas la durée, je fais un top pour lui dire quand est-ce que ça va à lui de parler quoi, et que tu vas sortir le jingle, donc tiens-toi prêt quoi. Mais tu fais aussi ça pour tous les assets, c'est-à-dire que tu passes une vidéo, tu passes une image. Nous on a normalisé en fait la manière de faire, on a deux typologies d'assets, vidéo et image, et dans ces typologies-là, notamment la typologie image, on a à nouveau deux typologies, soit c'est carré, soit c'est large. Et en fait, ces trucs-là, il faut les coller au réalisateur, parce que lui, pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne une régie, concrètement, tu construis tes scènes, plus ou moins, et quand tu fonctionnes avec un logiciel comme OBS, etc., c'est pré-construit, c'est des presets, tu passes de l'une à l'autre, c'est rigolo. Quand tu travailles avec un mélangeur.
Ah, tu viens de décrire, du coup, nous.
Les tocards, là. Non,
mais on le fait aussi. Il y a plein de productions où on fonctionne comme ça.
Alors que les vrais mecs qui ont un VMix, mais mon pote.
Alors, non, VMix, ça fonctionne aussi un peu comme ça. En l'occurrence, sur Popcorn, on a un Tricaster, qui est pas vraiment un mélangeur physique de télé. On a un Tricaster. Mais qui est pas tout à fait non plus un mélangeur software sur Windows. Donc, c'est un entre-deux un peu bizarre. Sur Tricaster, tu construis, c'est-à-dire que tu dis, OK, je vais prendre cette caméra, puis je vais en mettre celle-ci au-dessus, celle-là en dessous, et par-dessus, je vais mettre une image. Et après, t'envoies. Tu vois, c'est un peu l'idée.
Et du coup, toi, t'es là à dire, envoie le 1, 2.
Je dis à mon truquiste qui est à ma gauche, mon truquiste qui choisit les images, je lui dis, ça va être le 1.5. Donc lui, il cherche dans sa liste, ok, le 1.5, c'est lui. Okay. Et je dis à mon réal qui est à droite, ça va être un wide, c'est une vidéo, et ce sera sans son.
Et du coup, lui, te build ton...
Lui, il build le truc et il est en mode, ok, je suis prêt. Tu vois? Et donc, ça, je le faisais avant, pendant les émissions, en même temps que je faisais l'oreillette pour PA. Puis, Florent est arrivé et je l'ai formé à faire ça. Donc, maintenant, en fait, je suis vraiment les pieds comme ça.
tu manages.
Et je regarde le retour et j'ai l'oreillette de PA. Et mais ça me permet d'avoir une meilleure vision aussi.
Ouais, bien sûr.
J'ai plus besoin de re-regarder les émissions. Et c'est pas mal.
Très très cool. Toi qui as vu pas mal de prods de télé, ou enfin, si tu connais un peu le monde de l'audiovisuel, là on est quand même sur des prods qui sont quasiment au niveau de, même au-dessus de certaines chaînes télévision en fait.
Ouais, en fait c'est marrant, on est dans certaines innovations chez Popcorn. Après, j'ai jamais vu le behind the scene, tu vois, j'ai jamais vu comment ça se passe vraiment.
Vous voulez pas le faire ça?
Mais de ce que.
Non.
C'est, bon, on en parle après si vous voulez.
Mais de ce que t'en dis, il y a un côté très innovant qui est largement au-dessus aujourd'hui de ce que les chaînes de télé sont capables de fournir comme contenu.
Je suis flatté.
Non, mais c'est vrai, sur un point. Et dans un sens, il y a un côté, moi j'ai l'impression de vivre une espèce de V2 de Canal Plus années 90 où il y avait parfois des bricolages comme ça tant dans l'édito que dans la technique que dans machin parce que se créait quelque chose tu vois.
Ouais.
Et en fait c'est un peu un retour à ça tu vois de cette époque
on bootstrap
c'est la nouvelle télé c'est machin et tout il y a un côté un peu comme ça.
Moi je trouve que c'est ultra important le côté artisanal de Twitch.
Ouais.
Enfin du direct sur Twitch notamment en fait, c'est bien. Je trouve que c'est naturel, c'est plus transparent. Moi, j'aime pas les trucs qui sont trop polis, trop lissés, ouais. Trop.
Mais alors, est-ce que ça aiderait pas à la transparence de faire un behind the scenes?
Non, mais alors la réalité, c'est que des gens.
Il veut juste
fait.
Choper.
On en a déjà fait.
Ah, oui.
Et en fait, je pense qu'un jour, on fera un vrai behind the scenes. Mais le problème, c'est que si tu veux faire un bon behind the scenes, il faut une équipe qui te suit pendant plusieurs mois.
Oui.
Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, ouais. C'est pas techniquement sur quel bouton t'appuies, c'est les moments de stress intense, c'est les moments d'émotions vives, ouais. C'est les moments.
Faudrait faire un Formula One.
C'est un peu ça. En fait, quand tu fais, on a déjà fait un docu sur une semaine à la PAPROD il y a un an et demi,
ouais.
Deux ans, très
cool.
Plus, qui était cool. Et en fait, tu te rends compte qu'en une semaine, c'est cool, mais c'est pas assez bien. Parce qu'il y a des choses tellement plus intéressantes à filmer. Et en fait, t'as besoin d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière, ouais. Pour distiller juste les moments qui sont les plus émotionnellement haut ou bas. Parce que c'est ça qui fait un bon behind the scene en fait.
PA sous la douche.
Dans le chat, il y a Erwan qui nous demande pourquoi est-ce que le studio de Popcorn doit être démonté à chaque fois.
En fait, il faut se rendre compte que le studio de Popcorn, c'est un plateau déjà qui fait 140 mètres carrés, donc c'est gigantesque. Il est équipé avec peut-être 350 000 euros de matériel. Tu peux pas immobiliser un studio comme ça pour une émission, c'est impossible. Il y a aucun business model dans lequel ça rentre. En l'occurrence, c'est pas un secret particulier, mais on tourne Popcorn dans un studio chez Webedia. Donc Webedia a évidemment des enjeux financiers sur studio et ils ont besoin de le louer à d'autres personnes qu'à nous, en fait. Donc c'est pour ça. Et ça se passe aussi comme ça en télé. Les plateaux de la Plaine Saint-Denis, ils sont montés et démontés tous les deux jours. Typiquement, je vais prendre un exemple à la con. Nagui, quand il fait N'oubliez pas les paroles, il monte le plateau, il tourne 15 émissions en 3 jours. Puis il le démonte, et puis il refait pareil il y a deux semaines plus tard. Ouais. Et ça fonctionne comme ça. Le problème du direct, c'est que tu peux pas tourner 15 émissions en 3 jours. T'es obligé de le monter et le démonter chaque semaine. Voilà.
Ok, ouais, quelle organisation. Bon, alors, mais moi, c'est bien, ça me donne en gros un décompte de qu'est-ce qu'on devrait faire pour le next step. Pas sûr qu'on y aille, ou pas tout de suite en tout cas.
Mais c'est pas forcément nécessaire, tu vois. Nous, on a aussi eu ce truc de. Enfin. Popcorn en tant que tel, ça a pas besoin d'un plateau de 140 mètres carrés pour fonctionner. Avant, on était dans un plateau qui faisait 30 mètres carrés, je crois, il me semble à peu près, et ça fonctionnait aussi. La saison 1, que beaucoup de gens nous ont découvert plutôt sur la saison 2 qui est la saison de l'année dernière, du coup. Mais ouais, ça fonctionnait aussi. En fait, on a pris ce grand plateau pour, un, l'effet waouh, deux, pour poursuivre le truc très innovant où, tu lèves des contraintes, mais ça coûte aussi plus d'argent. Et en fait, la vraie raison pour laquelle on voulait un plateau plus grand, c'est qu'on voulait une zone dans laquelle on pouvait faire venir des gens qui performent. Que ce soit des danseurs, que ce soit des cracheurs de feu, que ce soit des diabolistes.
Ouais, on voit que vous en profitez, ouais.
Et c'est on en profite, ouais. Parce que sinon, t'es limité, quoi, un peu.
Ouais. Écoute, merci beaucoup de nous avoir raconté ça. Merci à toi, Hardisk, d'avoir été présent avec nous pour cette rentrée d'Underscore.
J'étais très content de faire cette fabuleuse émission.
Moi aussi, de toute façon, comme tu le sais, comme les gens le savent, on va te retrouver très régulièrement tout au long de cette saison.
Je me doute.
Où est-ce qu'on peut te retrouver?
Twitch.tv/hardisk.
Sur Twitter.
Par des petites perles.
Twitch.tv/hardisk, lundi, mercredi, vendredi, 18h, news tech, et des punchlines tel mon compte Twitch.
Parfait. et nous, on va en profiter pour accueillir notre dernière invitée de la soirée. C'est Upvote.
Et bah bienvenue.
Bah écoute, merci de nous recevoir.
Comme vous le savez, Upvote, c'est notre rubrique dans laquelle on accueille un talent qui vient nous expliquer quel est son métier, souvent incongru et qualitatif. C'est vraiment le pour ça qu'on les invite tout simplement. Et donc toi, Pierre, tu fais partie d'un collectif qui s'appelle Obvious.
C'est ça.
Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste?
Yes. Bah, Obvious, d'abord, c'est une histoire de potes. En gros, on est trois potes, on a grandi ensemble en banlieue parisienne. Ouais. Et en fait, on est un collectif d'artistes qui crée des œuvres d'art avec des algorithmes de machine learning, plus communément appelés intelligence artificielle.
Donc déjà, ça, c'est complètement fou.
Ouais, c'est marrant.
C'est-à-dire que tu, avec tes capacités de programmation, tu génères de l'art.
Alors, déjà, ce qu'il faut que je dise, c'est que moi, j'ai pas de capacité de programmation. En fait, on a la chance dans le trio d'avoir Hugo. Hugo, il est chercheur en machine learning. Il a une thèse, un doctorat. Il a.
Enfin, c'est propre, hein.
Donc ça, on y reviendra, mais en gros, ça, c'est une de nos productions. Ouais. Donc, en gros, il a un doctorat en machine learning et il fait maintenant un postdoc. Et donc, en gros, en fait, on s'est retrouvés à trois. Dans une coloc à Gare du Nord à Paris, et on voulait faire un truc créatif ensemble. Et en gros, Hugo, vu qu'il avait ses qualités de chercheur et qu'il adorait nous expliquer tout ce qu'il faisait, bah en fait, on a commencé à réfléchir à ce qu'on pouvait faire, et on a vu ces algorithmes qu'on utilise qui s'appellent des GAN, des Generative Adversarial Network.
Ouais. Et en fait, c'était l'époque où on commençait à faire du Victor, non, n'importe quoi, du enfin, ils prenaient des visuels et ils arrivaient à générer des tableaux de peintres célèbres. Je sais pas si t'avais vu ça ouais. passer. Et le premier que j'ai vu, c'était Van Gogh, voilà, c'est ça. Et c'était la première fois qu'on voyait ça.
Exactement.
C'est incroyable.
Et ben en fait, nous, c'était à peu près à la même époque, tu vois, on voyait cette technologie parce que Hugo, tu sais, comme il est chercheur, il fait de la veille scientifique. Et donc, en gros, un jour, il les ramène à la maison, il dit, ouais, bah, regardez, les gars, ce qu'on est capable de faire maintenant avec les algorithmes de machine learning. Et nous, là, on a d'abord, une espèce d'explosion dans la tête en mode, waouh, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Donc, d'abord, on a une explosion technique, on trouve ça fantastique. Puis après, tu sais, comme on est trois mecs dans un canapé, avec un peu de fumée, en gros, très rapidement.
Il y a des idées marrantes.
Les idées
apparaissent.
Exactement, tu vois, les idées créatives apparaissent. Et en fait, on s'est posé la question de qu'est-ce qui se passe philosophiquement quand tu crées de l'art avec ce type d'algorithme, qu'est-ce que ça pose comme question, ouais. tu vois? Et en fait, ça pose.
Oui, effectivement, ça sent la question que tu te poses en fin de soirée.
Ouais, tu vois. ça... Et au final, ça intéressait des gens. Et donc, en gros, on a créé une première série de portraits qui s'appelle La famille Bellamy. Et on a commencé à en parler, etc. Et ça intéressait le monde de l'art. Parce que ça pose des questions philosophiques comme quelle est la place de l'artiste, est-ce que c'est de l'art ou est-ce que c'en est pas?
Est-ce qu'un programmeur peut être un artiste?
Exactement,
ah ouais,
tu vois.
Est-ce qu'un programme peut être un artiste?
Un programme, ouais,
tout aussi, seul. Ouais. Et en fait, ce genre d'algorithme, la manière dont il fonctionne, je pense que c'est intéressant que je l'explique, c'est que, en fait, tu donnes plein d'exemples à un algorithme. Et l'algorithme, il va comprendre les codes en commun de ces exemples. Donc, il va comprendre qu'un portrait classique, c'est tout le temps la même chose, c'est deux yeux, un nez, une bouche, une tête sur un corps, tu vois. Et après, il va, à partir de ces features qu'il a captées en commun, il va recréer quelque chose de nouveau. C'est exactement le truc que j'aime bien faire en conférence comme métaphore, c'est un gamin, tu lui files un livre sur les dinosaures, tu vois. Et ben, au bout de 4-5 images, il a compris que c'était un animal à écailles et il peut en dessiner, hein, tu vois. Et donc l'algorithme, il a exactement le même processus intellectuel, entre guillemets, et il en recrée. Et donc la question de ce qui se posait à l'époque, c'est est-ce que ces algorithmes sont créatifs? Est-ce que c'est de l'art? Est-ce que, etc. Et donc nous, on a fait une première série d'œuvres, et en fait, le truc de dingue qui nous est arrivé, c'est qu'une de ces œuvres s'est vendue aux enchères. Donc un jour, tu vois, t'es trois mecs, tu commences à faire des toiles, etc. Et un jour, tu reçois un numéro, un coup de téléphone, bon, en l'occurrence, c'est un mail, mais c'est un peu la métaphore. Tu reçois un mail de Christie's qui est la maison de vente aux enchères
où se vendent les Picasso, les trucs comme ça, tu vois.
Donc, et donc en gros, Christie's nous envoie ce mail nous disant est-ce que vous voulez vendre votre travail chez Christie's? Donc là, tu vois, t'as commencé.
Oui,
oui, excusez-moi, c'est où qu'on signe quoi. Et donc,
trop stylé.
Nous on avait déjà vendu quelques toiles et là, Christie's nous dit est-ce que vous êtes chaud? Et donc, nous on dit ouais, bien sûr. On part à New York parce que la vente se fait à New York, tu vois. Donc, les grandes pompes, les trois Frenchies. En l'occurrence, Hugo pouvait pas y aller parce qu'il s'était cassé le genou en skate. Donc, en gros, les
oh
deux.
Non. Ouais. il a arrêté le jour du siècle.
Exactement, c'est vraiment ça. Donc, en gros, on y est allé à New York et en gros, l'estimate, c'est en gros à combien ton œuvre est estimée. Tu vois, sa valeur, tu vois. Ouais. Et donc, c'était entre 7 et 10 000 dollars. Et en gros.
Déjà pas mal.
Ouais, tu vois, bien. Tu vois. On vendait des toiles à peu près à ce prix-là parce qu'il fallait rembourser les coûts des GPU, etc. Ouais. Donc, c'était à peu près notre prix, quoi. Et donc, en fait, nous, on s'est retrouvés au premier rang de la vente aux enchères et ça monte. Et là, c'est deux biches pris dans les phares, tu vois, comme ça. Et ça monte jusqu'à 432 000 dollars.
Donc,
un demi-million.
C'est fou!
Quoi?
Ouais,
c'est fou.
Ouais, c'est un truc de ouf.
C'est 432 000
dollars.
Mais à quoi bon faire des NFT quand on peut aller sur Christie's? Moi, je vous le demande.
C'est incroyable. Mais surtout, mais c'est que ça, c'est en 2018.
Ouais, c'est en 2018.
C'est celle-ci?
Ouais, c'est exactement celle-ci. Et tu vois, le petit trick, c'est un peu marrant, c'est que nous, on signe pas Obvious en bas à gauche, en bas à droite. Vraiment, cette histoire de gauche-droite, je me serais affiché jusqu'au bout. Et donc, en fait, ouais, cette signature-là, c'est notre signature. C'est la formule qui permet de générer les œuvres. Et donc, en gros, on signe pas Obvious, on signe avec la formule mathématique. Donc, ça, c'est un peu notre gimmick.
Incroyable. Donc là, est-ce que moi, juste en théorie, à partir de ça, je peux, ça ne suffit pas pour arriver au même résultat quand même.
Non, non, non. En fait, c'est.
Je commence ce soir.
Mais en fait, ce qui est important, c'est ce que tu vas en faire.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire? L'outil, au fond, il est disponible au grand public. C'est du code open source, etc. Donc la question, c'est quelle base de données tu vas utiliser et qu'est-ce que tu vas vouloir dire au travers de ça. Tu vois, c'est ça qui est vraiment important dans l'art. C'est pas tant l'outil parce qu'en fait, c'est la même chose que le burin ou que l'appareil photo. Tu vois, tu peux en avoir un dans ta poche. Bah, en fait, le truc, c'est
pas pour
quelle photo
que
tu vas
être
prendre.
Un génie,
exactement. Ouais. Tu vois. Et donc en fait, bah, t'imagines bien quand tu passes de zéro à rien et que d'un seul coup, t'as 432 000 $. Ça te fait faire, enfin, ça te donne un coup de projecteur de dingue sur ton travail. Et dis-toi que là, on était tellement. Et
surtout, vous êtes même pas du game de la vente aux enchères.
Super triste de pas avoir découvert ça plus tôt.
Non, mais.
C'est fou.
De zéro,
vous,
de zéro.
Vous partez d'une coloc à Paris, quoi.
Exactement, ouais.
Et ça fait quoi de débarquer dans ce milieu qui doit être spécial, j'imagine, quand même?
C'est assez spécial. En fait, nous, on kiffe, tu vois. Vraiment. Ouais. Bah, déjà, c'est une histoire de potes, on se connaît. Enfin, il y a des photos de Gauthier et moi où nos darons, elles nous habillent pareil. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, on a deux ans. Enfin, c'est pour te montrer que c'est une amitié ultra forte. Et en gros, on a débarqué dans ce milieu-là et c'est, bah, en vrai, c'est ultra intéressant si t'es curieux. Tu vois, si les gens, nous, tu sais, t'as toujours cette espèce de truc de, ouais, l'art, c'est des gens fermés, tu vois, etc. Et en fait, ils sont ultra curieux à la nouveauté, ils veulent toujours apprendre de nouveau. Et donc, si t'arrives à quelque chose d'intéressant, qui pose des vraies questions, et c'est pas juste de la nouveauté pour de la nouveauté, tu vois, si ça pose des vraies questions intellectuelles, philosophiques, et que ça intéresse les gens, alors t'es bien reçu. Du moins, de mon expérience, tu vois.
Et c'est ce qui s'est passé pour vous, du coup.
Ouais, ouais.
Et alors, tu nous disais quand même qu'après, la transition a pas forcément été évidente de. Je suis on top of the world.
T'imagines
à vendre 430 000.
Enfin, tu vois, la pression qu'on a subie au moment où le marteau tombe, tu vois, je suis pas content. On a trop peur. Enfin, tu vois, t'as une pression de malade qui te tombe sur les épaules. Ah, derrière, tu sais pas quoi produire en termes de production artistique. T'as absolument tous les journaux du monde qui t'appellent. Enfin, tu vois, on a été élu Time 50 Genius Companies, Forbes 30, Under 30. Donc, tout le monde est venu nous mettre des médailles.
Incroyable.
Des médailles random. Donc, tu savais même pas que ça existait, tu vois. On a fait tous les médias du monde. On a eu des télés japonaises qui sont venues avec des rails. Tu vois, des rails parce que vous parliez de production audiovisuelle, tu vois. Donc, des caméras sur rails.
Des rails de traveling, là.
Ouais, des rails de traveling qui arrivent dans notre
appart
du Nord qui fait littéralement plus petit que cette pièce, ils installent le truc, enfin tu vois, tout
incroyable.
Est tout à l'avenant, tu vois. Et donc en gros, nous, on a un moment, on a fait vas-y stop, on en peut plus, tu vois. On s'est mis en mode PNL style, tu vois, pendant deux mois on a répondu
on communique plus.
C'est ça, ouais, c'est exactement ça.
C'est notre stratégie média.
Non, c'était pas une stratégie, oui. On en pouvait plus, tu vois, genre vraiment. Et après petit à petit tu relativises, etc. Mais ouais, ça a été tu passes du tout au rien, donc là tu te le prends en pleine gueule.
Du mais coup, une retraite monastique.
Ouais, mais
c'est imposé.
Ça a duré quelques mois, je vais pas non plus m'en plaindre, etc. Ouais. Tu vois, mais ouais, ça a été aussi cool que violent.
Bah non, mais franchement,
en fait, c'est un truc aussi que nous on connaît pas, tu vois. Vous devez connaître mieux que ça, mais les haters, juste ça.
Bah,
tu vois, des mecs qui t'insultent sur internet parce que t'as fait des trucs, enfin.
Partout, tout le temps.
Ouais, tu vois.
Mais je pense honnêtement que peut-être ton expérience était particulièrement compliqué parce que peut-être il y a une histoire de légitimité,
oui,
tu vois.
Bah non, mais la jalousie peut arriver vite aussi, hein,
ouais.
Quand on parle de ce genre de somme et de se dire il a rien fait, c'est un algorithme.
Ouais, ouais.
Non, mais grave, ça, tu vois.
Je pense que t'as un terreau qui est assez favorable. Exactement. Pour du hating, quoi.
Et puis même, enfin, juste que quelqu'un m'insulte sur internet, ça m'était jamais arrivé avant, ouais. Et là d'un seul coup ça t'arrive,
exposition,
puissance 10 000, tu vois. Donc
ouais, bon. Tu te dis qu'est-ce qui se passe,
ouais, qu'est-ce que c'est que cette histoire, moi j'ai rien fait.
Et qu'est-ce que vous dites du coup si quelqu'un arrive et vous dit en fait vous êtes pas vraiment des artistes?
Bah attends, il se trouve que c'est la question qu'on me pose à 100% des conférences que je fais. C'est la question, c'est pas vous l'artiste, alors c'est l'algorithme. Et là en fait on explique notre processus artistique. Je pense que c'est intéressant que je vous l'explique.
Grave.
C'est, tu vois, donc d'abord en fait, tu vas choisir un thème. Là, par exemple, dans la série japonaise qu'on a fait, l'idée, c'est qu'on fait un parallèle entre l'arrivée de l'électricité dans le Japon traditionnel et l'arrivée de l'intelligence artificielle dans nos sociétés. Tu vois, il y a des gens qui en bénéficient, etc. Enfin, t'as plein de concepts philosophiques intéressants à investiguer. Donc d'abord, tu choisis un thème qui va être intéressant. Donc ça, c'est le premier point.
Après, tu le donnes à l'algorithme. Après, c'est fini.
Et après, tu fais clic et c'est bon, t'es terminé.
T'attends deux jours et hop, le résultat.
Non, en fait, après, tu vois, tu crées la base de données. Donc c'est-à-dire que là tu dois rassembler plein d'images qui vont être utilisées par ton algorithme, et donc là c'est un travail de, tu vois, de par exemple de partenariat. Donc on a travaillé avec Lascaux, tu sais, les grottes de Lascaux. Ouais. Donc tu vas avec les grottes de Lascaux, tu signes un contrat avec Lascaux, ou alors tu trouves des bases de données open source, etc. Après tu dois faire fonctionner ton algorithme sur la base de données que t'as fait. Là bien sûr c'est pas un processus linéaire, pour n'importe qui a déjà codé il sait que c'est pas juste clic 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 enter, tu vois, c'est t'essayes des trucs, ça te rend des résultats dégueulasses, tu réessayes, tu fais
c'est
exactement ça, ouais, tu vois, genre t'essayes des trucs différents, etc. À un moment les résultats sont cool, là tu fais de la curation après, c'est-à-dire que l'algorithme va te générer des milliers de résultats et là tu vas sélectionner ceux qui vont voir servir ton propos. Donc pour revenir à la série, ouais.
Je serais incapable de sélectionner. Vous avez déjà eu ce truc, rien à voir, mais sur Deliveroo, Uber Eats, tu commandes, tu ne sais pas sélectionner. Imagine, t'as 1000 images qui se ressemblent. Tu sais,
un petit peu
pas mal.
Et tu dois retrouver la meilleure. Ouais, j'avoue que, tiens, comment vous faites ça?
Bah, en fait, le truc, c'est que nous, déjà, on se met ensemble, tu vois, on fait des présélections, etc. Et puis après, t'as aussi des espèces de critères que tu t'es fixé avant. Donc typiquement, l'exemple que j'aime bien donner, c'est dans la série d'estampes japonaises, t'as étudié l'estampe japonaise avant. Et donc tu connais les caractères classiques de l'estampe japonaise et tu veux pouvoir les retransmettre, tu vois. Donc tu vas aller chercher le samouraï, la geisha, le temple ou alors la montagne. Et donc tu vas
alors
essayer
que le mi-samouraï, mi-geisha, du coup, tu le mets de côté, par exemple.
Ouais, t'essayes. mais il y a des fois où c'est intéressant de le mettre, oui, parce que justement, c'est un bon merging, tu vois. Ouais. Après, tu vois aussi, là, en gros, ça, tu vois, c'est des Nike qu'on a fait avec Nike. Donc là, tu prends toutes les Nike de toutes les Air Max 97, tu les mets dans le truc et hop, tu les fais.
Généré par un GAN network.
Ouais, exactement.
C'est
ouais.
vrai, c'est incroyable.
Et là, par exemple, tu vois, là, t'as des contraintes clients.
Où mais elles sont fraîches.
Franchement.
Franchement, elles sont vraiment bien.
Moi, je valide.
Ouais. Et donc, tu vois, là, c'est plus un travail de créatif, tu vois. Et donc là, tu as des contraintes, entre guillemets, extérieures. C'est-à-dire, soit t'as des clients, soit t'as des partenaires qui te disent, il faudrait que ce soit ça ou ça. Et donc ça rentre dans ton truc de curation. Et pour terminer, la dernière étape de ton travail, c'est le choix du médium. Donc tu vois, on a fait des masques africains là récemment. Et l'idée, c'est que en gros, nous, on a les images et qu'après, tu travailles avec un artisan ghanéen. En fait, la dernière étape du process, c'est choisir le support qui va être pertinent pour ton travail.
Trop stylé. Alors surtout un projet qui avait fait énormément de bruit à l'époque, c'était Nous sommes Marianne.
C'est encore en cours. Ouais, c'est en cours. Ouais.
C'est quel est le concept? Honnêtement, la première fois que j'ai entendu, j'ai trouvé ça vraiment insane.
En fait, tu vois, le processus que je t'expliquais tu prends plein d'images, ouais, l'algorithme comprend. Ce processus-là, il est ultra intéressant pour parler de symbolique, plus généralement. Parce qu'en fait, ce que tu vas faire, c'est extraire une sorte de symbole de toute la base de données.
Okay.
Tu vois,
tu extrais le jus d'un truc conceptuel.
Exactement. Et donc, nous, en fait, au fond, nos collectionneurs, toute notre communauté, nous, c'est plus pas trop en France, finalement. Tu vois, c'est plus aux États-Unis, en Angleterre, à Singapour, dans ce genre d'endroit. Et en fait, on n'avait pas trop travaillé pour la France. Et donc, on voulait faire un truc et la symbolique, c'était cool. Et donc, en fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est de travailler sur la Marianne. Et l'idée, c'est de mettre plein de femmes françaises dans un algorithme et de générer la femme française. Et donc, pour ça, en fait, incroyable, on a fait un site sur lequel vous pouvez aller. Ça s'appelle noussommesmarianne.fr. Donc, toutes les femmes françaises peuvent participer. Et l'idée, c'est qu'en gros, ça t'ouvre une petite caméra. Et après, l'idée, c'est de générer une femme française à partir de toutes les françaises. Donc, ouais, ce site-là. Et en gros, ce qu'on aimerait bien, c'est que ce soit la prochaine sur les timbres, parce qu'en fait.
Et en fait, alors tu me dis si je me trompe, mais c'est une personne qui n'existera pas vraiment.
Bah non, ce sera le mix de tous.
Ce sera, oui, effectivement, ce sera genre, ah oui, ok, on voit bien le.
Tu vois ce genre de truc.
C'est incroyable. Et donc là, vous allez récupérer toutes les candidatures.
Ouais.
Faire mariner l'algorithme.
Complètement.
Jusqu'à arriver au résultat. Vous en êtes à quelle étape là?
Là, on est dans les phases de demande de femmes de participation, tu vois. Donc là, on a 4500.
Ouais, si, alors honnêtement, je veux pas te faire de faux espoirs. Il y en a pas forcément énormément.
Ah, c'est que dans les communautés IT.
Sur YouTube. Non, je dis ça sur YouTube parce que sur YouTube, on a les stats. Ouais. Donc voilà, t'auras pas l'audience de rêve. Mais si vous, s'il y en a qui nous regardent, ou si vous avez une sœur ou une mère qui veut participer, allez-y.
La Marianne, tu vois, souvent c'est choisi parce que la fille, elle est belle ou alors qu'elle a réussi professionnellement.
Ouais.
Et on trouvait qu'en fait, cette manière de choisir l'icône de la France, c'était un peu un truc des années télé, des années, tu vois, c'est un peu un truc des années 90.
Bah, c'est vrai qu'à l'époque, des algorithmes qui te permettent d'analyser des centaines de millions de visages.
Ça courait pas les rues.
Mais même, c'est un truc qui est un peu générationnel et qui est pas très représentatif finalement,
ouais,
tu vois.
Ouais, je suis d'accord.
Et donc là, en fait, ce que je disais, c'est qu'on a fait un site qui s'appelle Nous sommes Marianne, où toutes les femmes françaises peuvent venir mettre leurs photos et après on va recréer l'essence de...
Est-ce que vous avez un truc qui permet de vérifier si c'est des hommes?
Non, 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 mais on va passer sur la base de données.
Pas de bêtises.
Non, alors, et en plus de ça, pour être assez inclusif, on a la formulation qu'on prend, et franchement, on le pense, c'est toutes les personnes qui se sentent femmes françaises.
Ouais, mais c'est ce que je voulais dire aussi.
Si t'es un homme et que tu te sens femme, si t'es binaire, je suis pas très au courant de tout ce genre de choses, mais si t'es, en gros, si tu considères que tu es une femme française.
Si tu peux cliquer sur le bouton,
ouais,
t'as le droit de participer.
Je pense que c'est très bien vu.
Je disais justement que ici, c'est pas notre audience, c'est pas celle qui contient forcément le plus de femmes. Ouais. Il m'a dit juste à juste titre que sur Popcorn,
je vais peut-être vous choquer, il y a sans doute plus de femmes qu'ici, mais il n'y en a pas tant que ça.
Il n'y en a pas tant que ça, ouais, on est d'accord.
Venez, on est gentils.
Vous attendez combien de participants avant de clore?
En fait, j'ai décidé de pas me... On a décidé vraiment de pas se tirer une balle dans le pied en disant un chiffre qu'on n'atteindrait jamais, etc. Tu vois, l'idée, c'est que ce soit représentatif, donc en vrai, au-dessus de 10 000, ce serait bien. Ce qu'on aime, notre rêve, notre doux rêve, ce serait que, tu vois, en fait, les présidents, ils choisissent une Marianne après au début de chaque mandat.
Donc, oui, là, ce serait... bien plus économique.
Tu vois, il y a une sorte de calendrier secret machiavélique qu'on aimerait bien qu'il y ait plein de femmes qui participent pour que, au moment, en mai, où il y a un nouveau président, que le projet soit tellement évident que ce soit celui-là qui soit.
Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on pourrait presque faire une Marianne par jour, là, du coup.
Ouais, complètement.
Parce que l'avantage de ton algo, c'est qu'il peut en générer plein.
Complètement. Et alors, en fait, le truc qui va être vraiment cool aussi, c'est que, donc, bien évidemment, on a les coordonnées de toutes les participantes. On a juste leur adresse email, mais on a leurs coordonnées. Et qu'en fait, dans la phase 2, tu vois, dans la phase de curation, on va faire une mise à jour du site et les femmes qui ont participé pourront choisir parmi les plusieurs visuels. Ce sera pas nous qui se sélectionneront dans l'algorithme.
Ah oui, il y aura un vote. Cool. Ok, c'est
vraiment. En gros, ça fait que vraiment ce symbole-là sera le symbole des femmes françaises.
La Marianne.
Et après, les gens osent te dire pourquoi vous êtes des artistes. C'est moche.
Oui.
Non, c'est moche.
Très poétique, moi, je trouve.
Non, mais en vrai, je trouve le projet très beau.
Si bien.
Vraiment. C'est
très,
c'est
très, très
cool.
Stylé. Effectivement, je vois du soutien également dans le chat. N'hésitez pas, mesdames et messieurs, on arrive doucement à la fin de cette émission. C'était honnêtement passionnant. Est-ce que t'as apprécié ce moment? On était trop content de t'avoir.
Bah ouais, moi c'était super cool. Je suis désolé d'être allé deux fois aux toilettes. Je fais la même chose dans Popcorn. Je suis incapable.
C'est l'ambiance cool. Chill de ce plateau. On est dans une soirée entre copains, donc qui ne va pas aux toilettes finalement. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Pierre?
Bah alors le plus simple pour nous suivre, c'est Instagram, obvious_art. Voilà, celui-là même. Nous, en gros, on produit plein de trucs. Là, on n'a pas eu le temps d'en parler vraiment, mais aussi, on est aussi les premiers artistes français à avoir fait des NFT. En gros, depuis le 2018, tu vois. Donc, on est aussi un peu.
On en parlera plus longuement de cette affaire.
2018. Bah ouais. Ça existe depuis 2018.
J'étais même pas au courant.
Tu m'aurais dit 2019, à la limite, j'aurais accepté. Ouais, 2018, depuis 2002.
En fait, super rare.
Vous êtes très avant-gardiste quand même là.
Bah, en fait, tu vois, notre curiosité, elle nous drive, tu vois. C'est vraiment ça. Nous, ce qu'on aime, c'est parler du futur, parler de ce truc-là et de le transmettre par l'art. Et donc, là, par exemple, je suis en train d'essayer des trucs. J'espère qu'en 2024, on me dira, ah ouais, t'étais sur le truc en 2021.
Moi, je trouve ça assez stylé, tu vois, de mêler le monde artistique et le monde de l'algorithmie. Parce que ça permet d'expliquer aux gens. Et c'est un truc que beaucoup de gens, quand même, comprennent pas, je trouve. Comment, à quoi ça sert un algorithme d'IA, tu vois? Et rien que le fait d'expliquer, t'as une sortie, ouais, c'est tout de suite beaucoup plus visuel, tu vois. C'est assez évident, quelque part, beaucoup plus en tout cas.
Et c'est pour ça, en fait, que nous, on est pas mal en musée et tout, tu vois. C'est parce que les institutions, plus généralement, elles ont ce besoin d'expliquer.
Ouais, d'exprimer la manière avec laquelle ça fonctionne.
Parce qu'en fait, dans ta vie, tu utilises 10 algorithmes d'intelligence artificielle dans ta journée, tu vois. Voilà, tu vois. Et tu t'en rends même pas forcément compte. Mais pourtant, c'est un sujet qui est important. C'est pas un sujet.
Et tu vois, c'est fou parce que pour moi, c'est un vrai truc. Truc important sur Internet. Les gens oublient qu'il y a des algorithmes derrière la génération des contenus des réseaux sociaux, notamment Twitter. Et les gens oublient que sur Twitter, l'algorithme, il répond à une seule demande, c'est fait sortir les tweets qui génèrent le plus d'engagement. Et c'est pour ça qu'il y a que de la merde dans les tendances. Voilà. Et c'est super important de le comprendre. L'algorithme de Twitter te montre pas les tweets qui ont le plus de succès, qui ont le plus de portée.
Le plus de pertinence.
C'est le plus d'engagement. Et c'est super important.
Et du coup, c'est un moyen très, très visuel, effectivement, que je suis tout à fait d'accord.
Tu vois, le truc, c'est de montrer, c'est d'expliquer, c'est de prendre des utilisations concrètes. Et tu vois, il y a plein de, nous, on a toutes nos séries, tu vois, je t'ai expliqué le truc de l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le Japon. Mais toutes nos séries, elles ont des sujets comme ça. Il y en a une où c'est la justice et l'intelligence artificielle. Ouais. Qu'est-ce qui se passe il y a les juges en France, s'ils sont fatigués ou qu'ils ont faim, légalement, ils te jugent moins bien que si t'es bien jugé.
J'avais vu passer, ouais.
Et donc en Estonie, ce qui se passe, c'est qu'ils ont ils ont intégré des algorithmes d'intelligence artificielle pour essayer de contrebalancer ça, tu vois. Et donc on a fait toute une série d'œuvres d'art sur ouais, quel est cet équilibre, quel est l'équilibre.
Tellement en avance en Estonie, c'est fou. Putain.
Ouais, c'est un pays de ouf.
On s'est premier degré posé la question de quand on a vu ce délire sur les NFT et tout, on s'est dit mais attends, il y a pas des trucs marrants à faire peut-être avec l'émission et tout, tu vois, où chaque émission est unique et tout. Donc si jamais ce genre de truc se concrétise, on vous envoie un petit mail pour avoir votre aide.
Vous n'hésitez pas.
Parce qu'on est pour l'instant des gros noobs du YEM, mais on est très curieux. Donc,
En plus de ça, la communauté, elle se crée elle gonfle de malade. Ouais. En France, là, il y a une NFT house qui est en train de se créer. Il y a plein de gens qui commencent à faire une communauté. Il y a les premiers NFT meetup qui ont été créés récemment. Enfin, franchement, là. Bon,
j'ai hâte de voir ce qui va survivre, ce qui sera un peu bulle de spéculation. Ouais. Mais ouais, ça.
Moi, je pense pour cette histoire de spéculation, tu vois. Je pense que au fond, tu vois, disons que je suis un collectionneur d'art et que j'ai 50 ans dans 20 ans, tu vois.
Ouais.
En ce moment, nous, si demain t'achètes une œuvre d'art Obvious, tu vas avoir l'œuvre d'art et tu vas avoir un papier avec qui t'écrit ceci est bien une œuvre d'art Obvious. Ouais. Tu vois. C'est un papier. C'est littéralement moi qui le fais sur InDesign, je l'imprime et je te le donne. Ouais. Tu vois. Au fond, dans le futur, si t'es un mec qui est un peu tech, est-ce que tu as plus confiance dans un papier que n'importe qui peut photocopier ou un NFT,
tu sais que c'est exactement, c'est l'une des manières avec laquelle on l'a expliqué quand on a parlé des NFT dans Popcorn. C'est que c'est exactement ce que tu dis. Il y a un moment où il faut se rendre compte que la NFT, c'est la même chose que le bout de papier qui est un certificat d'authenticité, pardon. Sauf que, c'est pas brûlable avec un briquet, quoi. Tu vois? Donc finalement, c'est mieux, en fait.
Et là, est-ce qu'il y aura encore des gens qui font des millions là-dessus? Je sais pas.
Oui.
Mais par contre, que la technologie devienne une norme, cette technologie.
Ce serait pas étonnant, ouais.
Je pense.
Très intéressant. Bon, on peut te retrouver du coup sur le compte Instagram. Tu étais seul ici représentant de ton collectif, mais vous êtes plusieurs.
C'est
juste qu'on a un problème de place sur le canapé.
C'est marrant parce que tout à l'heure, t'as dit, il y a un collectif qui vient, j'étais en mode, mais c'est marrant, il était tout seul derrière.
Oui. Oui, bah, factuellement, il y a 3 places, quoi.
On aurait pu s'entasser.
Oui, c'est ça, sur les genoux.
Voilà, à chaque question, il y en a un qui sort, tac, il y en a un qui revient.
Clément, bon, tu es souvent derrière les projets donc de PA Domingo. Mais toi, est-ce qu'on peut quand même peut-être suivre?
Bah, pour ceux qui aiment bien consommer du contenu une fois tous les mois, vous pouvez me suivre sur Twitter ou sur Instagram, @ThéoClément.
Sinon, tous les contenus donc, de Popcorn et de Domingo que vous pouvez retrouver sur Twitch, bien entendu. Merci énormément à vous de nous avoir suivis pour cette première de la saison 2 d'Underscore. Vous le savez, c'est tous les mercredis à 20h sur Twitch. Et ensuite, les rediffusions sont dispo sur la chaîne YouTube. Vous pouvez directement aller les voir et récupérer toute la première saison. Énormément de contenu à rattraper. Balle perdue également, si vous avez apprécié, si les retours sont bons. On continue. Ça revient la semaine prochaine. On va améliorer par itération. Et moi, je vous dis à mercredi prochain, 20h. C'est reparti pour la saison. Salut.
Bye bye. Au revoir.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said. Done.